Bien, bonsoir. On va peut-être commencer puisque notre réunion doit être terminée à 22h30, 22h45, dernière limite. Bien, ce soir, on va parler de l'hôpital. On va parler de l'hôpital en tant que service public. Et pour parler de l'hôpital en tant que service public, nous avons invité deux intervenants. Donc, à ma gauche, le professeur André Grimaldi, qui est professeur de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et qui a publié l'an dernier un livre qui s'appelle L'hôpital malade de la rentabilité, donc qui est tout à fait au cœur des débats qui animent aujourd'hui l'hôpital. Et à ma droite, Didier Bernus, qui est secrétaire général de la Fédération Santé de Force Ouvrière et qui est en plus un poitevin d'origine, puisqu'il a même travaillé dans l'établissement où j'exerce actuellement. D'accord. Donc, l'hôpital est une vieille institution qui prend sa source dans une prescription du premier christianisme. La préoccupation pour les plus miséreux. L'activité de l'hôpital, c'est fondamentalement l'accueil du malade et du déshérité, mais aussi du voyageur et du pèlerin. C'est cette fonction qui fonde la représentation de l'hôpital, aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. Au fil du temps, cette fonction a connu des aléas. Les hôtels-dieu au siècle de Louis XIV sont devenus des lieux d'exclusion. Je citerai l'ordonnance du 27 avril 1656, qui d'ailleurs était à l'origine de l'hôpital de la Salpêtrière. Édit du roi portant établissement de l'hôpital général pour le renfermement des pauvres mendiants de la ville et faubourg de Paris. Et à l'époque, donc, la Salpêtrière a été conçue pour héberger les mendiantes et les filles de mauvaise vie. Complétée en 1676 par une ordonnance promulguant la création d'un hôpital général dans chaque ville du royaume. Et là, il s'agissait de l'édit de création de l'hôpital général et de, je cite, l'isolement de tous ceux qui dépravent la société. À l'issue de la période révolutionnaire, les communes prennent le relais de l'initiative religieuse dans la gestion hospitalière. La médecine moderne va émerger lentement de ce socle caritatif. La loi du 21 décembre 1941 a ouvert à l'ensemble de la population les établissements jusque-là réservés aux indigents. Un décret du 20 mai 1955 crée le statut national des personnels hospitaliers dans le mouvement des grandes réformes de la libération, notamment la création du statut de la fonction publique en octobre 1946. L'École nationale de la santé publique a accueilli une première promotion d'une vingtaine d'élèves directeurs en 1961. L'argument de sa création est fourni par le professeur Debré, le père de l'ordonnance de 1958 qui a institué l'hôpital moderne. Il n'est pas seulement le père de cette ordonnance d'ailleurs. Son devoir, et je cite, « son devoir est d'introduire parmi les fonctionnaires de nos administrations, nos enseignants, nos dirigeants, l'opinion publique entière, le souci de l'homme malade et celui des efforts qu'il faut faire pour prévenir les malheurs, attaquer la maladie, bref, établir en France une administration de santé publique. » L'hôpital public en France est donc l'héritier de cette longue histoire de la charité chrétienne avec toutes ses ambiguïtés et du service public au sens où l'ont élaboré les textes issus de la Libération. La loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire constitue une étape majeure de cette histoire en ce qu'elle dilue la notion d'hôpital public et redistribue complètement les outils du pouvoir de décision. Et c'est maintenant ces différents aspects qui vont être développés par nos intervenants. Je vais d'abord passer la parole à André Grimaldi.
Mais merci de cette invitation. Je vais essayer de ne pas être trop long puisqu'on puisse avoir un échange avec vous. Ma conviction, c'est que on est en train de changer complètement le système de santé et qu'on a une crise d'une particulière acuité parce qu'en fait, c'est la conjonction de trois crises qui sont simultanées et qui font la gravité de la situation, dont je pense que la population est en partie un peu consciente par biais d'une inquiétude générale sur l'avenir du système de santé, mais ne perçoit pas clairement les enjeux et non plus les solutions. Ces trois crises, c'est une crise démographique, une crise d'adaptation, mais ça au fond qui est à peine une crise, qui est un problème maintenant continu de l'adaptation du système de santé au progrès de la médecine, aux besoins des populations, au changement d'exercice professionnel. Et enfin, ceux qui dominent le débat, qui est une crise de financement, de quelle régulation des coûts de santé. Mais c'est la conjonction des trois qui est terrible. Alors la première, crise de démographie, elle vient d'une volonté délibérée de réduire le nombre de formations de professionnels de santé, pas seulement de médecins, depuis les années 75. Ça a commencé sous Giscard. On est passé de 8500 médecins formés par an à 3500. La pente est absolument régulière. Quand vous regardez la pente, qui descend donc jusqu'aux années 2000, puis un plateau, puis ça remonte, vous ne voyez pas l'ombre d'une inflexion selon que le gouvernement est de gauche, de droite ou de cohabitation. C'est donc un consensus national. En 95, la Sécurité sociale demande aux médecins généralistes de partir en retraite anticipée. Elle paye ses départs pour éviter, dit-elle, la pléthore médicale. Donc, on est stupéfait devant cette myopie. On parle aujourd'hui de déserts médicaux. Et on a, pendant 25 ans, une politique continue. Il faut réduire le nombre de médecins. Alors, si on regarde aujourd'hui, il y a un débat. Hein. Au fond, il y a quand même beaucoup de médecins en France, même plus que d'autres pays. Laissons tomber ce débat, qui est une ergoterie. Parce qu'au fond, il y a 10 000 médecins étrangers en France. Donc, on a beau dire tout ce qu'on veut, on importe des médecins étrangers qui font défaut dans leur pays. Et quand ces pays ne sont pas des pays de la communauté européenne, on interdit aux malades de ces pays de venir se faire soigner en France par les médecins qu'on a importés. Donc on est dans un délire. Si on ajoute que des étudiants en médecine collés en France partent en Roumanie pour faire leurs études pour revenir en France, alors on est vraiment, on marche sur la tête. Alors d'où ça vient? Comment gauche et droite ont pu s'unir dans un tel consensus national? Quel était l'argument de la gauche? L'argument de la gauche s'est personnalisé par Gilles Joannet, qu'on évoquait tout à l'heure, Jean de Carvazdoué, qui lui maintient d'ailleurs qu'il y a trop de médecins en France. L'argument était, dans l'économie de la santé, ça sera un point que j'aborderai dans la troisième partie de la troisième crise, c'est l'offre qui crée la demande. Autrement dit, ce sont les médecins qui créent les malades. Si vous diminuez les médecins, vous aurez moins de malades. Évidemment, c'est un petit côté paradoxal, on est un peu étonné. Non, ce qu'il voulait dire, c'était pas stupide. C'était que s'il y a moins de médecins, il y aura moins d'activités inutiles. Voilà. Hein, c'est que, puisque ce n'est pas un marché... C'est un marché potentiellement qu'on peut manipuler, qui est, c'est le marché de l'angoisse. Donc, au lieu de multiplier les examens, ou multiplier les rendez-vous, au lieu de demander des choses inutiles, diminuer le nombre de médecins, ils vont se concentrer sur l'essentiel. Bon, ça, c'était complètement une naïveté incroyable. C'est-à-dire, on pouvait défendre l'idée de réduire le nombre de médecins si on disait, mais alors, on discute de leur implantation. Bon. On ne le discute pas quand ils ont fini leurs études, mais avant, le contrat, il est avant, vous voulez faire ce métier. Désormais, vous aurez pendant 5 ans un devoir ou 3 ans. Enfin bref, on en discute avant. Deux, on pouvait revoir la répartition des tâches entre médecins et paramédicaux, notamment infirmières. Mais on n'a rien fait de tout ça. On a laissé le système tel quel et on a diminué le nombre de médecins. Ce qui fait qu'on a programmé qu'il y aurait beaucoup de médecins sur la Côte d'Azur et dans Paris intramuros. Bon, et puis que ce serait un désert ailleurs. Et puis comme on a en plus légitimé les dépassements d'honoraires, alors c'est même un désert dans Paris. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer des dépassements d'honoraires. L'argument de la droite était sacrément plus matérialiste. C'était pour pouvoir imposer nos tarifs, il faut que ce soit en position de force sur le marché. Le président du syndicat des gynécologues et obstétriciens libéraux disait la chose suivante, si les Françaises ne veulent pas payer les dépassements d'honoraires en clinique privée, elles ont qu'à aller se faire soigner à l'hôpital par des médecins à diplôme étranger. Avec une note xénophobe au passage. Donc ça, c'était clair. Au fond, parce qu'une partie du vieux libéralisme médical n'a jamais tout à fait encaissé la sécu. Bon, pense toujours, au fond, est attaché au fait que dans les principes du libéralisme médical, il y a une liberté de négocier avec le patient le tarif dans un dialogue singulier. selon le vieux principe charitable que vous avez évoqué, les riches paieront et pour les pauvres, ça sera gratuit. Il y a une belle lurette que c'est le tarif unique pour tout le monde. Donc, voilà la crise de démographie. Les conséquences de cette crise sont colossales. Colossales, c'est-à-dire pour des petits hôpitaux, des équipes sont parties à la retraite, non remplacées. Et vous ne les remplacez pas par un ou deux médecins, parce que maintenant, l'appel à venir, mais attendez, la médecine moderne, c'est des équipes. Vous ne pouvez pas avoir les médecins s'il n'y a pas les radiologues. Vous ne pouvez pas avoir les radiologues, les chirurgiens, il faut les anesthésistes. Donc, c'est des équipes entières à recréer. On s'est réveillé très tard, nous, dans les CHU, parce que, notamment à Paris, parce qu'on était les moins touchés. Quand on s'est réveillé, on s'est aperçu que la machine était cachée. Mais même dans les CHU, le nombre d'internes diminuait faisait qu'on ne pouvait pas renouveler complètement les seniors. Deuxièmement, que les internes ont vu leurs conditions de formation se dégrader. Donc, l'attractivité de l'hôpital pour les jeunes qui ont vécu ça, ils n'ont pas un souvenir béat de leur internat comme moi, je pouvais l'avoir. Ils ont le souvenir qu'il ben, fallait faire des tâches, il fallait faire des gardes, et puis on ne pouvait pas profiter de tout ce qu'il y avait dans le service. Et puis les seniors étaient aussi sur le pont. Et ben donc, la formation... Et aujourd'hui, la Fédération d'hospitalisation privée, des cliniques privées, dit « Nous sommes prêts à recevoir des internes pour leur formation. » Super. Alors, voilà pour la première crise qui est la toile de fond, qui a en partie cassé la machine. On ne reconstitue pas ça comme ça. Hein, on a relancé maintenant... le nombre d'étudiants en médecine, etc. Mais il y a des choses qui sont passées qui sont irréversibles. Alors, deuxièmement, la crise d'adaptation, qui est un immense sujet, qui est une crise, donc, on peut dire crise si on veut, c'est pas tout à fait une crise, c'est un processus qu'on a à réfléchir en permanence maintenant. Les progrès médicaux bouleversent la médecine, les besoins des populations changent, les conditions d'exercice du métier changent. Je prends un exemple évident pour tout le monde. On a connu une épidémie d'une maladie nouvelle qui s'appelait le sida. Un événement incroyable dans l'histoire de l'humanité, l'épidémie comme ça. Bon, dans un délai record, on trouve l'agent causal. Si on compare avec l'histoire de l'humanité, c'est incroyable. Dans un délai record, on trouve le traitement. Alors, quand il y a eu l'épidémie, ben, on manquait de lits. Les malades mouraient des épisodes infectieux, il a fallu que les services de médecine internes se spécialisent dans le sida, on a ouvert des services sida. Vous êtes passé d'une maladie aiguë mortelle à une maladie chronique qui se traite en ambulatoire. Bon. Avoir créé un service sida, par exemple, ça n'a pas de sens. En tout cas, tous les lits que vous avez créés, ils ne servent plus à rien. Bon, donc, il faut une adaptation, donc il faut un changement. Alors, dans quel sens se font les changements ? Se font dans deux directions et qui sont deux directions opposées. Premièrement, le progrès passe par la spécialisation, par la technicisation, tout le progrès scientifique. Alors, ça, c'est un des axes de changement. C'est-à-dire on a une capacité d'objectiver, de réparer le corps humain de plus en plus puissant. L'imagerie permet de pratiquement tout voir. Hein, et on a des techniques de plus en plus performantes de réparation du corps humain. Bon, c'est, je sais pas, comme si on réparait un peu des bagnoles. Alors derrière ça, c'est là que naît l'idée hôpital-entreprise. C'est l'idée qu'il y a un processus d'ingénierie qui ressemble à l'entreprise. Alors prenons des exemples pour que ce soit clair, ça a plein de conséquences. Aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a un an et demi, là, à Noël, il y a un an et demi, ce malade qui est dans une ambulance à Paris, qui a fait un infarctus du myocarde, qui récidive, qui tourne, et il arrive à la Riboisière et il meurt. Scandale, le président de la République fait, et à juste titre, mais ça veut dire, imaginez que la population française a intégré à juste titre que vous avez 6 heures lorsque vous faites un infarctus pour arriver dans un centre où on débouche votre coroner pour éviter l'infarctus. C'est vécu comme un droit normal. C'est une révolution incroyable. Alors pensez ça, pensez toutes les conséquences. Ça veut donc dire qu'en permanence, 24 heures sur 24, il y a des cardiologues interventionnels capables de déboucher des artères. Qu'il vous faut arriver là sans passer par les urgences de l'hôpital et y paumer 4 heures, 5 heures ou 6 heures. Donc, il faut une chaîne de soins. Donc, il faut regrouper des moyens. Hein, pour faire ça, vous n'allez pas faire un petit service à l'ancienne avec son patron, son assistant, les deux chefs de clinique. Donc, vous ne pouvez pas mettre ça partout. Mais il vous faut pourtant des cardiologues partout. Donc, vous faites des niveaux différents. Vous allez dire, alors, il y a niveau 1, le cardiologue qui, lui, fait pas ne bouge pas de coronaire. Mais il a besoin de lui partout, dans tous les hôpitaux. Deux, il débouche des coronaires, mais seulement sur programmation. Trois, les urgences. Quatre, le service de chirurgie cardiaque. Voilà quatre niveaux. Il faut qu'ils travaillent ensemble, ces gens-là. Parce que le type qui, lui, ne fait pas de cardiologie interventionnelle, il n'est pas un sous-cardiologue. Il voudrait bien, l'après-midi, aller faire autre chose. Donc, il faut le remplacer. Donc, il faut organiser. Donc, un fonctionnement de réseau. Dans votre département de cardiologie, vous n'allez pas y mettre un mandarin. Vous avez créé un truc qui est fusion de 3 ou 4 services. Vous y mettez un coordonnateur. Vous avez changé la gouvernance. Alors, la spécialité, alors c'est pareil, accident vasculaire cérébraux, vous avez 3 heures. L'hémiplégie, qui est une histoire quand même de tout notre imaginaire, de tous nos grands-mères, grands-pères, qu'on fait l'hémiplégie, qu'on a vu hémiplégique. On peut éviter l'hémiplégie en 3 heures. Donc, il vous faut, entre le début de l'événement et le centre vasculaire où on va dissoudre le caillot, 3 heures. Il faut organiser ça sur tout le territoire. C'est une organisation incroyable, qui a un progrès fantastique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a des gens qui sont là-dedans, qui pensent que ça, c'est beaucoup plus compliqué encore. Il faut que la filière fonctionne. Il ne faut pas qu'il y ait de thrombuse dans la filière. Il faut partir du généraliste qui vous amène au bon endroit, puis vous dégagez du bon endroit, parce qu'il y a ceux qui arrivent. Donc, où est-ce que vous allez après ? Soin de suite. À Paris, dans les hôpitaux de Paris, chaque jour, 1000 patients ont fini les soins, mais ne peuvent pas rentrer chez eux et ne sont pas pris en soins de suite. Donc, restent dans le service de chirurgie, restent partout. 1000 patients, l'équivalent d'un hôpital tout plein. Alors, on peut dire que les hôpitaux sont en déficit, mais enfin, bon, soyons sérieux. Mais après, ce n'est pas tout. Vous dites très bien la spécialisation à outrance. Ça peut aller très loin, la spécialisation à outrance. J'ai rencontré un chirurgien cardiaque qui travaille en Allemagne, dans une grande institution. Il est spécialiste d'une seule valve du cœur, la valve mitrale. Il opère 400 valves par an. Il me dit, j'arrive le lundi, j'ai mon programme opératoire. Bloc numéro 1, telle heure à telle heure. Bloc numéro 2, telle heure à telle heure. Bloc numéro 3, je ne vois pas les malades. Ni avant, ni après. Je vois que leur valve. Le thorax est ouvert quand il arrive. Je lui dis, parce que le malade est adressé à un cardiologue de l'institution. Il n'est pas adressé à ce chirurgien. C'est une grande institution très connue en Allemagne. Donc, il est adressé à l'institution, le malade voit un cardiologue, son dossier est traité au staff, et puis il y a un super technicien qui fait son boulot de la valve. Je lui dis, au fond, tu ressembles à un pilote de Boeing, quoi. Moi, je ne vois pas le pilote, je vois l'hôtesse, c'est peut-être mieux. Du moment que tu atterris, tu décolles, c'est bon, c'est ce qu'on te demande. Il est vachement heureux, le gars. Et c'est ça, l'idée hôpital entreprise, d'où ça vient. C'est-à-dire, il y a derrière l'idéologie, mais il y a ça. Alors, mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez quand même pas dit tout, parce que... 3 points de remarque pour montrer le bémol de ça. Laurent Sedel, qui est un orthopédiste connu de la Riboisière, fait une bonne remarque. Il dit, on compare donc souvent notre métier de chirurgien à un métier de pilote. Il dit, c'est faux. Et il donne une boutade qui n'est pas si mal, si vous réfléchissez. Il dit, quand un pilote a un crash, en général, il n'en a qu'un dans sa carrière. Tandis que nous en avons forcément plusieurs et nous devons être capables de ramener le malade à bon port. Donc nous ressemblons aux pilotes qui a voulu retourner sur Kennedy et aller se cracher, qui a atterri sur l'Hudson. Donc nous, on a une part d'improvisation, de savoir-faire, d'expérience, qui n'est pas qu'une part de procédure. Donc même dans ça, la comparaison n'est pas tout à fait. Deux, surtout plus important, mais 30% de ces malades à qui on va déboucher les coronaires, c'est des diabétiques. Comment est la prise en charge globale ? La spécialisation, c'est le progrès ? Mais c'est contradictoire avec une prise en charge globale. Et c'est complètement nul de réussir la prothèse de hanche d'une quelqu'un de 90 ans, mais alors l'incontinence urinaire, le fécalo, mais elle va mourir de son escarre avec sa prothèse toute neuve. Il faut donc qu'il y ait un gériatre dans le service d'orthopédie qui prend en charge les malades. C'est fini, le service d'ultra spécialisé. Donc, il faut imbriquer les services. Bon, c'est bien joli de faire des pôles, mais si les pôles, c'est des concurrences de pôles, des chapelles de pôles, c'est absolument absurde. Bon. Donc, moi, indépendamment du pôle, on a une diabétologue du service qui est à mi-temps dans la cardiologie. Ils n'ont que des diabétiques. Ils ne savent pas gérer ça, c'est normal. Plus ils sont spécialisés, moins ils sauront gérer. Et plus chaque spécialité. Et ça, vous avez ça dans toutes les spécialités. Donc, c'est un problème en soi de penser ça. Au fond, c'est ce qu'avait fait Robert Debré en 58, à l'époque de 58. Bon, il fallait penser ça. Ça n'a rien à voir avec la loi HPST, parce que personne ne pense ça. Deuxième axe d'évolution de la médecine, tout à fait à l'opposé. Les progrès de la médecine sont très grands, d'accord, mais tout à fait insuffisants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les maladies chroniques se développent. Qu'on n'en meurt pas, le diabétique ne meurt plus, mais il reste diabétique, il fait son infarctus, il n'en meurt pas, il le fait plus tard, il va aller en dialyse, et 35% des dialysés sont diabétiques, 65% aux USA. Ok, on peut prévenir ça. On peut prévenir ça. Mais ça suppose que les patients apprennent à se soigner. C'est une maladie chronique. C'est une représentation. C'est quelle place de cette maladie dans votre vie. C'est comment se soigner. C'est très difficile. Et les gens qui ne croient pas que c'est difficile, moi qui suis un vieux clinicien, j'ai soigné beaucoup de mes confrères. Très compétents dans le diabète. Et quand vous soignez un médecin, vous apercevez que c'est vraiment difficile. Hein ? J'ai eu un collègue chirurgien vasculaire qui a amputé des diabétiques, qui a ponté des diabétiques. Il arrive, il est triple ponté cardiaque, il ne prend aucun médicament. Hein ? On me l'envoie pour rétinopathie diabétique. Il rentre dans mon bureau, les mains en l'air, disant « je me rends ». Okay ? Hein ? J'ai connu une ophtalmo-diabéto, elle lasérisait l'œil de ses malades pendant que son rein se détruisait. Elle a été greffée à un pancréas. Quand vous avez dit ça, vous êtes dit oh, « attendez, 25% des rejets de greffe, c'est dû à la non-prise des médicaments. 25% des rejets de greffe. Vous êtes greffé cardiaque, c'est un immense succès, mais après vous êtes un malade chronique, et alors là, voilà, vous vous mettez à fumer. Vous dites, c'est con, hein, pour un qui est greffé cardiaque. Ben, ou vous ne prenez pas vos médicaments, et il est greffé cardiaque. Bon, quand il y a l'épidémie de sida, c'est pareil. Hein, on a la trithérapie, on est convoqué, nous, au ministère, avec les assurances de patients, avec le ministère, avec les infectiologues, qui nous disent, on ne comprend rien. On vous appelle, vous, les diabétologues, parce que maintenant qu'on a une maladie aiguë, mortelle, chez des gens jeunes, très informés, maintenant qu'on a le traitement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui ne le prennent pas. Comment vous expliquez ça? Bon, donc on est dans, deuxième chose, la maladie chronique, la formation des patients, la prise en charge. Alors, penser une réforme du système de santé aujourd'hui, c'est complexe, parce que c'est penser deux systèmes. Les maladies aiguës, les gestes techniques, et les maladies chroniques. Ce n'est pas le même mode de prise en charge, ce n'est pas la même relation médecin-malade, ça ne doit pas être le même mode d'organisation, ça ne doit pas être le même mode de financement. Or, toutes les réformes ne sont pensées qu'à travers le prisme de la maladie aiguë et des gestes techniques. Tout ! La T2A, en gros, c'est à peu près adapté à la maladie aiguë, aux gestes techniques. Et surtout aux gestes techniques. C'est inadapté à la maladie chronique, et encore plus à la mort. On a voulu faire ça. Je ne vous dis pas sur le plan éthique que ça représente. On a pu penser ça. Et quand vous lisez les rapports, c'est toujours l'histoire des salles d'opération, de leur taux d'occupation, qu'en privé, c'est afflux continu, qu'à l'hôpital, c'est le bordel, etc., etc. C'est toujours les salles d'opération. Mais la pédiatrie, il n'y en a pas en clinique privée. Mais la diabétologie, le pied diabétique, etc., il n'y en a pas en clinique privée. Hein ? Mais les polypathologies, il n'y en a pas. Mais la complexité, il n'y en a pas. Mais on pense toujours par le modèle, la maladie aiguë, les gestes techniques. Je caricature un peu, dans la loi est arrivé quand même un chapitre sur l'éducation thérapeutique. J'en dirai un mot sur le plan de financement. Alors, c'est ça que devrait faire d'abord. C'est de ça qu'il faudrait partir pour penser la réforme du système de santé. Avec les maniages territoriaux, tout ça, comment maintenir l'égalité d'accès aux soins et comment répartir les tâches entre médecins paramédicaux, etc., etc., etc. Alors, troisième crise, pour ne pas être trop long, qui est la crise dont tout le monde parle, qui est le coût de la santé. Alors, comme on le disait à table, enfin comme vous le disiez, à juste titre, on a un système mixte, depuis la libération en gros, financement public, qui s'est continué par la CMU, hein, parce qu'au fond ça a été progressif cette histoire, avec une idéologie qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, mais qui est une idéologie forte, partagée comme une espèce d'identité nationale, l'égalité d'accès aux soins. Ça, on n'est pas du tout dans l'idéologie américaine. En France, on n'imagine pas encore que les riches manifestent avec des pancartes que les pauvres se payent la santé. Bon, aux yeux, ça, c'est possible. En France, pas encore. Bon. Alors, on a un système à financement public, solidaire, et une distribution de soins mi-public, mi-privé. Libéral et hôpital public. Bon, on a maintenu ça. Et en gros, ça a eu un résultat, parce que le résultat, c'est que les Français ont eu un avantage d'un système de santé assez généreux, d'assez bonne qualité, si on compare à un système étatique anglais qui a entraîné beaucoup de rationnements, des listes d'attente, une vétusté incroyable des hôpitaux qui a été en partie rattrapée par les sommes importantes mises par Blair dans le système, mais qui était un retard colossal. Et puis le système américain, qui lui a 40% est public, mais pour 100% complètement privé, et qui, lui, est alors le moins efficient de tous les systèmes, avec 16% du PIB ou 17%. Vous connaissez le débat avec Obama, les 45 millions d'exclus. Et surtout les critères forts de performance de santé, de morbi-mortalité infantile, de complications du diabète, de taux d'obésité, très mauvais, très mauvais. 17e rang mondial. Pour la première fois aux USA, l'espérance de vie a diminué. Donc, ce qui est clair, c'est que quand vous êtes un pays pauvre, vous augmentez les coûts de santé et vous augmentez vos résultats. Au bout d'un moment, c'est plus vrai. Ce ne sont plus le fait d'augmenter les coûts de santé qui améliorent les résultats macro, hein, en termes des grandes complications, des critères de mortalité infantile, du taux de suicide, etc. C'est plus vrai. Donc les USA, visiblement, dans leur système tel qu'il est, ils peuvent mettre 18%, 20% de leur PIB, ils n'amélioreront rien de leurs critères. Il y a une grande étude qui a montré que si vous êtes un ingénieur, même niveau d'études, même niveau de salaire, et diabétique, le fait d'être américain est un facteur indépendant de tous les autres facteurs de risque de survenue des complications par rapport au fait d'être anglais. Hein, c'est comme ça. Alors, il y avait une polémique dans la campagne avec Obama, puis ça continuera les polémiques, mais enfin, qui disait qu'est-ce qui est mieux, le système américain ou le système anglais ? Réponse, le système français. Donc, on a un système qui, en gros, dans ce mixte-là, libéral, matiné quand même, bon, et financement public, a donné des résultats satisfaisants. Alors, ceci dit, il coûte cher. 11% du PIB. Alors là-dedans, il y a d'abord, tout comme toujours dans les chiffres, des manipulations idéologiques. On dit qu'on est deuxième au monde de coûts de santé. C'est faux. C'est une manière de présenter les résultats en pourcentage de PIB. Si votre PIB est petit, évidemment, ça augmente le pourcentage. On est en cinquième position, en chiffre absolu, en euros. Très devant les Américains, évidemment. Mais l'Allemagne est un peu devant nous. La Suisse est devant nous. L'Australie est devant nous, je crois, le Canada est devant nous. Bon, donc on est cinquième, on est dans un mouchoir de poche avec l'Allemagne, on est dans les grands pays développés, Canada, etc. Derrière, il y a l'Angleterre. Alors, en termes d'efficience, les Anglais sont plus efficients. Si on compare les grands critères de mortalité, etc., c'est les Anglais qui donnent le mieux. Alors se pose le problème, néanmoins, de l'augmentation des coûts de santé, donc de leur régulation. Quelle régulation ? Alors, vous avez trois régulations possibles. Une régulation, un, par les professionnels. Les médecins doivent, c'est dans le code de déontologie, appliquer le juste soin au juste coût. Bon, ils le font de manière variable. Deux, les patients ont un bien national, collectif, solidaire, donc ils ne doivent absolument pas gaspiller le coût de la santé, qui est un bien précieux et limité. Ils le font de manière variable. Néanmoins, ça existe quand même, mais c'est clair que ce n'est pas suffisant. Donc, il reste deux autres moyens pour réguler la santé, soit une régulation publique. L'intérêt d'une régulation publique, c'est l'égalité d'accès aux soins. La crainte, c'est le rationnement. Soit une régulation par le marché. Enfin, moi, si vous me demandez ce que vous proposez, je proposerai une alliance entre les professionnels et la régulation publique. Ça, on va en discuter, mais dans la discussion, si vous avez des questions, qu'est-ce que ça voudrait dire, comment, je vous dirai ce que j'en pense. Régulation par le marché. Alors, étonnamment, dans cette période de crise, et compte tenu de l'expérience historique, et des Américains, et du débat aux USA, c'est la régulation par le marché que choisissent les idéologues français qui influencent le gouvernement. Alors, leur argumentaire est simple. Il faut le prendre à la lettre et puis voir ce qu'il en est. Le marché a montré, historiquement, indépendamment du mode de production capitaliste ou pas, qu'il était le lieu le plus adapté pour que puisse correspondre une offre de soins, une offre en général, et une demande solvable. Voilà. Quand on a voulu produire des godasses, le système de planification, on vous demande, vous les voulez noir, marron, bleu, on va en produire combien, quelle taille, etc., ça n'a pas marché. Le marché, lui, fonctionner. Bien. Deuxièmement, on veut la qualité, parfait, la concurrence permet la qualité au plus bas coût. C'est ce que vous avez fait pour l'assurance de votre fille, 50% au moins. Donc, la concurrence est le mode pour obtenir la qualité au bas coût. 3, voici un lieu où il y a beaucoup d'investissements nécessaires, parce qu'il y a des progrès techniques permanents. Donc les profits que permet le marché sont les moyens d'un investissement permanent. 4, il faut que les professionnels soient motivés par leur travail. Pas de problème, l'intéressement financier et le fric est un bon moyen de motiver tout le monde. Donc, intéressement financier. Alors, bon, voilà les arguments d'ailleurs, qu'on cherche à mettre en œuvre. Et pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi ça n'a jamais marché en santé et ça ne marchera jamais? Ça ne marche pas parce que vous n'avez pas choisi d'être malade. Vous n'êtes pas un client éclairé, un consommateur éclairé. Vous êtes dans l'angoisse. Vous êtes prêt à n'importe quoi, à payer pour sauver votre gosse ou sauver votre mère. Et si je veux m'y mettre, je vais vous dire, je vais vous transformer un peu en angoissé, vous allez venir me voir pour faire des tests d'effort et des coronarographies. Je vais vous dire, bon, là, vous devriez mesurer votre tour de taille. Toutes les dames qui ont plus de 80 cm ont un haut risque coronarien, c'est bien démontré. Les messieurs, 90 cm, etc. etc. Je vous raconterai une histoire et à la fin, vous vous sentez mal. Vous dites, tiens, je voudrais bien avoir l'examen. Bon, donc, ce que disait Jean de Cavazoué est juste, c'est le marché de l'angoisse. C'est totalement, c'est un marché infini. Si vous pensez à la définition de l'OMS, la définition de l'OMS de la santé, qui est bien, c'est non seulement l'absence de maladie, mais une sensation de bien-être psychologique, social. Donc c'est le bonheur. Bon, donc ça, c'est un marché infini. Hein, et c'est totalement manipulable. Il n'y a qu'à voir les publicités. Totalement manipulable. Alors, la concurrence, ça veut dire la publicité. La publicité en santé, c'est un coût colossal. Vous faites rentrer les assureurs, les mutuelles, gestion 25% du chiffre d'affaires. Sécu 5%. Donc, loin de coûter moins cher, ça coûte beaucoup plus cher. Pour un gaspillage dément et pour tout ce qui n'est pas solvable, tout ce qui n'est pas rentable, à la poubelle. Et résultat pour la société, beaucoup plus cher, résultat efficience de santé bien moins bonne. Quand on a franchi un certain stade, évidemment, si on compare avec un pays africain, bon, hein, mais si on compare France-Allemagne, il n'y a pas photo. Alors comment on rentre là-dedans? C'est le choix qui a été fait. Et ça, c'est la grande rupture. Parce qu'au fond, sous les présidences différentes de la Ve République, les présidents de la République ont toujours été influencés par des grandes familles médicales. Pour le meilleur, pour le pire, sont tombés, ça ne fait rien. La famille Debré, c'est un prototype. Mais c'était vrai sous Mitterrand, c'était vrai sous Chirac. Ça s'arrête avec le président Sarkozy. Ceux qui sont les proches et qui influencent le président Sarkozy, c'est les assureurs. Son conseiller santé, Raphaël Radan, il vient de l'assurance. C'est AXA, c'est la Générale de Santé. C'est absolument pas le monde des médecins, qu'au fond, ils méprisent. Hein, ça, c'est la grande rupture. Alors, question posée. Je prends 5-10 minutes et puis j'arrête. Question posée, comment vous créez un marché qui n'existe pas? Parce que c'est ça, leur question à eux. C'est comment créer un marché qui n'existe pas? Alors, premièrement, changer de vocabulaire. C'est très important, la bataille sur les mots. Si vous gagnez la bataille des mots, vous gagnez la bataille des idées, allez-y. N'appelez plus un médecin ou une infirmière, médecin-infirmière, mais producteur de soins. Dites pas c'est un patient, ni même un usager, mais un client ou un consommateur. Ajoutez même d'ailleurs qu'il doit être très informé et qu'il a le libre choix. Ça paraît chic, dans l'autonomie du patient qui est une valeur reconnue. Hein, vous avez le libre choix. D'ailleurs, beaucoup de chirurgiens s'y mettent. Voilà, je vous informe, voilà les risques, et bien vous choisirez, prenez votre décision. Le malade sort complètement paumé et m'appelle en disant, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit que c'est à moi qui décidais s'il m'opérait ou pas le rachis, qu'est-ce que je fais? Bon, il voudrait un médecin, le gars. Bon, et oui, libre choix. Et oui, quand vous êtes chez Leclerc, vous n'avez pas quelqu'un qui vous conseille, vous faites les étagères. Bon, vous choisissez et vous vous informez. Bon, mais vous n'êtes pas dans l'angoisse quand vous êtes chez Leclerc. Bon. Dites plus répondre aux besoins de la population ou aux besoins de santé. Dites gagner des parts de marché. La FHF, Fédération française de spécialisation publique, se félicite que les hôpitaux publics aient regagné des parts de marché en orthopédie. C'est joli comme tout. Bon. C'est bien le langage courant. Vous dites plus dévouement. Sacerdoce, c'est vraiment une horreur. Dans le langage libéral, ça c'est un gros mot. Hein, Non, mais vous dites travailler à flux tendu. Ça, c'est mieux. Hein, etc., etc., etc. Et à longueur de rapport. On parle tous comme ça à la fin. Au début, ça vous fait rigoler. Au bout, vous ricanez. Hein. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que cette histoire d'intéressement financier, toutes les études qui ont été faites dans tous les domaines, quand vous avez quelque chose qui a une grande valeur de motivation intrinsèque, hein, c'est-à-dire le métier d'infirmière, le métier de médecin, c'est une motivation. On ne fait pas ce métier pour n'importe quelle raison. Parce qu'on a le sentiment d'une valeur importante d'aide à l'autre, d'humanité profonde. Bien. Et donc on s'épanouit dans son métier. Ou alors il faut changer de métier. Si vous y introduisez non pas un salaire honorable qui vous permet dans la société d'avoir un statut correct, mais qu'on vous finance, alors il faut financer beaucoup, parce que vous dégradez la motivation intrinsèque. Je vous donne un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Si je vous dis il faut donner du sang, donner votre sang, je vais vous filer 20 euros. Tu te fous de ma gueule. Si je dis il y a un gosse à sauver, est-ce que vous pouvez donner votre sang? Tout le monde va dire tout de suite. Bon, quand il y a eu la canicule, les infirmières, rappelez-vous, les infirmières sont venues sur l'hôpital, elles ont amené leurs appareils personnels de ventilation, de machin, elles sont restées. Et que dit Raffarin après? Je vous fais une petite prime d'indemnité. Elles ont dit gardez-la. Elles ont dit gardez-la parce que c'est pas payable. Bon, donc ça, c'est un truc puissant. Et derrière ça, vous avez quel type de société on construit? Quelles sont les valeurs de la société que vous voulez construire? Alors comment on fait? Donc, il faut prendre le pouvoir d'État. Ça explique que la loi HPST, d'un côté, elle peut apparaître comme une loi d'étatisation. C'est ce que dit Jean de Kervazoué quand il dit c'est une loi soviétique. Bon, c'est un peu excessif, mais il aime bien le langage excessif. Mais il y a un fond de vrai. C'est-à-dire qu'on dit, désormais, c'est le président de la République qui nomme les directeurs d'hôpitaux. Je fais bref, mais c'est ça. Hein, c'est... Le conseil des ministres donne les directeurs d'ARS, qui sont des préfets sanitaires, qui ont tout pouvoir, qui peuvent être révoqués à chaque conseil des ministres. Le directeur d'ARS nomme les directeurs d'hôpitaux, il peut les révoquer en dehors du statut de la fonction publique, sans droit d'appel. Et le directeur de l'hôpital nomme les chefs de pôle et peut les révoquer de la même façon. Voilà, en quatre niveaux, vous faites N plus 4, on remonte sur Nicolas. Bon. Donc c'est un truc ahurissant. Ahurissant. Mais le directeur de la paix, quoi. Ce qui se passe au directeur. Le même a dit il faut un seul patron à l'hôpital. Un seul patron à l'hôpital. Le directeur. Parce qu'hôpital, entreprise. Hein. Alors, il invite les patrons parisiens à déjeuner à l'Élysée, mais il n'invite pas le directeur d'hôpital. Il sait que c'est rien. Le seul patron, il ne l'invite pas. Et il dit à Bachelot tu me roselines, tu te tais. Bon, au 10 repas. Bon, c'est hallucinant. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le pouvoir. De la loi, vous supprimez le mot service public hospitalier. Vous parlez d'établissement de santé. Comme vous avez dit, du coup, les PSPH, c'est-à-dire les établissements mutualistes ou institutionnels privés à but non lucratif, disparaissent. Il n'y a que des établissements de santé. De statut variable, mais établissements de santé. Donc, nous sommes tous des établissements de santé. Il n'y a plus de service public hospitalier. Vous découpez en tranches fines les missions de service public et vous les vendez à la découpe. Ce qui permet au privé d'acheter ou pas selon que c'est rentable. Par exemple, vous avez des cliniques privées qui disent « nous voulons faire des urgences ». En fait, ils veulent faire du tri d'urgence. Fracture, on se la garde, mais rachis, on n'est pas équipé, on transfère. Hein, voilà. Ils veulent faire de la formation. Ah, mais pour des internes de chirurgie ou de cardiologie de quatrième année. Non, pas pour les petits, hein, mais pour qu'ils comprennent leur métier, pour voir où ils vont être plus tard, bon, pour pouvoir sélectionner les professionnels de santé. Alors évidemment, ils ont fait une campagne, vous avez vu, absolument scandaleuse. La Fédération de l'hospitalisation privée, sur toutes les radios, sur les quatre pages de Libération. Faites-vous soigner à clinique privée pour sauver la sécu, ça coûte moins cher. Hein, la ministre n'a rien dit. Donc nous, on l'a interpellé, ce qui n'est quand même pas notre boulot en tant que médecin hospitalier. On est reçu par son directeur de cabinet qui nous répond, la ministre est très contre la campagne. Pourquoi ne le dit-elle pas? Pour ne pas leur faire de publicité. Faites une loi pour interdire ça en France. En France, la publicité sur les médicaments est interdite, contrairement aux USA. La publicité commerciale entre établissements de santé doit être interdite dans une régulation publique. Hein, l'inverse d'une régulation par le marché. Faites-vous de la concurrence. Nous, la régulation publique, interdiction de publicité commerciale. Ah non, ces lois contre la publicité sont des lois liberticides sur la liberté de parole. Il ne faut jamais faire de loi là-dessus. Bon, très bien, on ne peut rien faire. Quoi, voilà. Donc, moyennant quoi, ils ont fait cette campagne avec quand même les deniers de la Sécu.
c'est quand même les cotisations qui payent quelques centaines ou 200 millions d'euros de campagne sur les ondes à RTL ou autre sur « Ah, t'as été opéré ou ça ? Ah, mais en clinique ? Ah, ben c'est beaucoup mieux pour la sécu !» Bon, hein, vous avez entendu ça. Alors, 3, je termine sur la T2A, ça serait plus long, mais enfin bon. Vous créez un marché virtuel avec un prix de marché administré. Alors, T2A, il faut en parler longuement. C'est-à-dire qu'il y a 3 modes de financement possibles, théoriques. On peut financer l'hôpital au prix de journée, comme un hôtel. On peut financer, ce qui était le cas jusqu'en 83. Jean de Cavazoué a changé ça. Alors, c'était l'époque où les directeurs nous disaient le malade pourrait sortir lundi plutôt que vendredi. Ça fait 2 jours de plus pour l'hôpital. Après, on est passé au budget global, qui avait un intérêt qui est d'être très, très déflationniste. Autre intérêt, il vous laissait une liberté de manœuvre assez importante à l'hôpital, et notamment au service. Moi, par exemple, ça me permettait de discuter avec le directeur et de dire « je veux créer l'éducation thérapeutique ». Il disait « bon, très bien, vous ne faites pas ça, on vous laisse votre budget, on vous laisse vos infirmières, vous développez l'éducation thérapeutique ». Et c'est comme ça que l'éducation thérapeutique ne s'est développée que dans les hôpitaux, grâce au budget global, et qui rentre dans la loi. Mais est-ce qu'il y a de l'éducation thérapeutique en clinique privée ? Zéro ! En médecine libérale, zéro ! Alors la loi consacre l'éducation thérapeutique, mais ne réfléchit même pas à comment ça a été possible qu'elle se développe à ce point dans les hôpitaux, ben, grâce au budget global. Alors, par contre, le chirurgien qui pose des prothèses, il dit, ben, avec le budget global, moi, au mois de novembre, j'ai tout, s'il travaille beaucoup, j'ai épuisé mon budget, je ne peux plus poser de prothèses, j'en vois en clinique. Donc évidemment, le budget n'était pas adapté aux gestes techniques. Donc on est passé à un financement lié à l'activité, enfin un mélange d'activité et actes. Sauf au lieu de dire il faut les 3 systèmes, on est passé, parce qu'en France on a la pensée unique, d'un système à l'autre, au troisième. Alors, l'horreur des horreurs, mais je vais terminer parce que ça serait trop long. 70% des Français meurent à l'hôpital. Alors, faites rentrer la mort dans la tarification de l'activité. Ça donne la chose suivante. Vous arrivez en soins palliatifs, vous mourrez avant minuit, 800 euros. Vous avez la gentillesse d'attendre. On passe à 8000. 8000 pour 2 jours, 8000 pour 3 jours, 8000 jusqu'à 15 jours. Le forfait correspond à 2 ou 15 jours. Vous durez. Merde. Les tarifs baissent. Donc, discussion entre M. Leonetti, député UMP, et Mme Aoustin, directrice des tarifs. Donc, journal officiel de la République française. Compte rendu des débats à l'Assemblée. M. Leonetti. Mme Aoustin, je connais des services de soins palliatifs, qui font sortir les patients mourants, fictivement, des places de service, pour les reprendre, pour faire 2 séjours au lieu d'un, et faire ainsi 16 000 euros au lieu de 8. Ne pensez-vous pas, Madame la directrice, qu'un paiement au prix de journée serait adapté ? Au fond, c'est soins de confort, absence de soins contre la douleur, et la sortie n'est pas décidée par le médecin ni par le directeur, elle est décidée par le bon Dieu. Bon, ça paraît pas mal, le prix de journée. Elle a une réponse foudroyante. Elle lui dit, monsieur le député, ce n'est pas possible. Ça remettrait en cause le principe de tarification. Voilà. Donc, les principes de financement sont au-dessus de l'activité médicale. Alors, je peux vous en raconter comme ça des kilos. Hein ? C'est-à-dire qu'on a mis le managering à la place de l'activité professionnelle. Bon, derrière ça... Alors, je dis que d'un mot, c'est une vision de la société où la technisation et la marchandisation sont les seuls modèles avec derrière un vrai anti-humanisme. Les professionnels ne peuvent être motivés que par le pouvoir ou le fric. Hein, et ça aboutit à cette gestion merveilleuse de la grippe que vous avez vue. Hein, c'est-à-dire qu'il est évident que les généralistes ne veulent que du fric, donc on ne leur donne pas. Les hospitaliers, c'est des paresseux, ils ne vaccineront pas. Et donc, on a créé un nouveau système de santé dans les stades, donc vous avez vu l'efficience remarquable. Hein, voilà, je termine.
Merci beaucoup, André Grimaldi. Didier Vernus.
Oui, je vais essayer de ne pas faire de redite. Cette loi HPST, somme toute, on en a tous un petit peu entendu parler à la télévision, à la radio, dans les journaux, sans pour autant qu'elle ne fasse l'objet réellement d'un débat, puisque les seules images qu'on nous a montrées, ce sont les défilés, avec en tête les professeurs et les pontes, surtout de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et qui contestait le fait que l'on supprime aux médecins une part de décision dans l'hôpital. Est-ce que cette loi HPST se résumerait à ce problème qu'on appelle dans notre vocabulaire, dans notre jargon, de gouvernance interne des hôpitaux ? Moi, je dirais non. Et cette loi hôpital, patient, santé et territoire s'inscrit dans une continuité. En cela, je rejoindrai le propos de M. Grimaldi quand il disait que finalement, il y a un vrai consensus dans ce pays sur cette affaire-là, puisque depuis 1991, si on commence sur les réformes majeures qui sont intervenues ces 20 dernières années dans l'hôpital, depuis 1991, tous les 4 ans à peu près, nous avons une loi majeure qui vient réformer le système de santé ou l'hôpital, où on intègre et où on amalgame sans nuance du reste système de santé et hôpital quand on nous présente les choses. 1991, loi Evin, qui a mis en place, et c'est là où l'hôpital public a disparu du reste, les établissements publics de santé. L'hôpital public a disparu en 1991 au travers la loi portant réforme hospitalière qui est intervenue. Et on a mis en place au travers cette loi aussi un système d'organisation des soins par le biais de schémas régionaux d'organisation des soins. Donc on dit finalement l'organisation de la santé et des soins, l'échelle d'organisation, ce doit être la région. Et puis on a eu ensuite en 1996 les ordonnances Juppé, c'est ainsi qu'on les a appelées, qui ont traité d'un certain nombre de sujets concernant l'assurance maladie et l'organisation des soins, avec la création notamment des agences régionales de l'hospitalisation, la mise en place d'objectifs nationaux des dépenses d'assurance maladie votés par le Parlement alors que nous étions dans un système où on déterminait les dépenses d'assurance maladie par la Sécurité sociale après intervention des services de l'État qui fixaient le niveau de dépenses autorisées au niveau de l'assurance maladie. Donc là, on dit finalement c'est la représentation nationale qui va déterminer quel va être le niveau de dépenses d'assurance maladie. Et puis il y a eu ensuite, en 2005, la mise en place de ce que l'on a appelé la nouvelle gouvernance, avec le fameux plan hôpital 2007 qui a fait l'objet d'une large médiatisation, qui avait pour objet d'assurer une meilleure gestion de l'hôpital. Il faut responsabiliser les acteurs de l'hôpital parce que finalement, s'il y a un certain nombre de difficultés, c'est peut-être parce que c'est pas bien géré et c'est parce qu'on responsabilise pas suffisamment, notamment le corps médical. Le médecin, c'est le prescripteur, donc il faut pas qu'il prescrive n'importe quoi puisque la prescription et source de dépenses. Donc, pour qu'ils ne prescrivent pas n'importe quoi et pour qu'ils prennent conscience que quand ils font une prescription, ça engage beaucoup de choses, eh ben, on va le responsabiliser et on va mettre en place la nouvelle gouvernance. Et on va, là aussi, mettre en place, par exemple, les pôles d'activité. On nous explique que les pôles d'activité dans les hôpitaux, c'est bien mieux parce que ça va rationaliser les flux, les circulations. Pour le malade, ce sera bien plus pratique, il va mieux s'y reconnaître. Et puis, on va faire des économies d'échelle au travers les pôles d'activité et ça va faire des économies. Et puis, on a eu en 2005, la mise en place, de 2004 à 2008, la mise en place de la tarification à l'activité, la réforme des modes de financement des hôpitaux et cette fameuse loi hôpital, patient, santé, territoire. Le point commun de l'ensemble de ces réformes, à chaque fois, ce qui est présenté à l'opinion publique, c'est la question du déficit de la sécurité sociale et comment, grâce aux réformes, on va enfin résoudre le trou abyssal de la sécurité sociale. Grâce à chaque fois, à chaque réforme, c'est la DRDDR, c'était comme en 14-18, et grâce à la réforme merveilleuse que je vais prendre quand je suis ministre, je vais enfin résoudre l'épineux problème du trou de la sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le trou de la sécurité sociale, ce n'est pas l'objet de la conférence, vient se greffer une autre dimension qui, elle, est incontournable. C'est celle de l'évolution des dépenses publiques, des déficits publics, dont il a été décidé à l'échelon européen, qui qu'ils doivent être encadrés avec un principe que les dépenses publiques, enfin les déficits publics ne peuvent pas dépasser un pourcentage du produit intérieur brut, donc pas plus de 60% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la production globale des richesses des pays, et que on ne peut pas, enfin les taux d'évolution, et on ne peut pas avoir des déficits publics supérieurs à 3% du produit intérieur brut. On voit que ces critères, qui sont des critères vraiment très contraignants, puisque quand on dépasse, il y a des conséquences pour les États, à la fois du point de vue de leur financement, des taux de cotation, c'est-à-dire que quand ils font des emprunts selon qu'ils sont dans les bons clous, etc., ils ne vont pas rembourser au même taux, etc. Donc ça a des contraintes, ce sont des contraintes avec des conséquences tout à fait directes pour les États. Et donc, il faut contenir les dépenses, l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Et pour contenir les dépenses, l'évolution des dépenses d'assurance maladie, eh bien, il y a le versus qui a été exposé par M. Grimaldi en disant, ben voilà, si on tarit la source, forcément, on va moins dépenser. Et deuxième aspect, bien entendu, il y a la question de la gestion, puisque plus la gestion sera efficiente, plus on va améliorer cette gestion, plus on va manager, bien entendu, moins il y aura de dépenses. Donc, ce sont ces deux angles d'attaque qui ont toujours prévalu derrière ces réformes-là. Et la réforme hôpital-patient-santé-territoire n'échappe pas à cette logique. Je serais même tenté de dire qu'elle vient l'accentuer. Premier postulat, c'est est-ce que, finalement, pour rendre le service public, est-ce que c'est l'hôpital public qui est forcément le mieux placé? Eh bien, là, on nous répond non. On nous répond effectivement qu'il y a des établissements de soins, de santé, qui peuvent être publics, qui peuvent être privés, privés lucratifs. On peut même avoir, par le biais donc, de l'activité libérale, ce service public rendu. C'est là, à tout le moins, une manière d'écorner le pacte républicain qui, en France, et c'est vrai que c'est un particularisme que l'on ne retrouve pas dans les autres pays et dans les autres États membres, il dit, derrière notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, eh bien, la nation s'est mise d'accord pour dire que pour servir l'égalité ou pour tendre vers l'égalité, eh bien, le service public est une composante primordiale. Et le service public en France est servi par ce qu'on appelle la fonction publique pour tendre vers cette égalité. Et ce service public, cette fonction publique, pourquoi elle serait de nature à tendre vers l'égalité? Parce qu'on va définir des possibilités d'accès qui seront les mêmes pour tout le monde, quelle que soit sa situation sociale, que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois croyant ou non-croyant, que je vote à droite, que je vote à gauche, que je sois grand, que je sois petit, que je sois blanc, que je sois noir. Si j'ai telle difficulté, la société est à même de me rendre ce service. Et du point de vue de la santé, le service public hospitalier, qui a une évolution somme toute assez récente, ça a évolué tout au long du siècle, et cette révolution du service public hospitalier date de la fin de la Première Guerre, où on a eu ces premières évolutions, qui a été rappelée du reste dans le propos introductif, et qui a pris son plein essor, notamment après la Seconde Guerre, dans le cadre de la mise en place de la sécurité sociale qui s'est assise en disant, ben voilà, on met en place un système socialisé de la prise en charge des soins qui fait que je vais cotiser en fonction de mes moyens, mais je vais bénéficier de soins en fonction de mes besoins. Et c'est ce qui prévaut dans le cadre du service public, c'est ce qui sous-tend le service public. Et à côté de ça, il y avait le secteur privé qui, lui, va pouvoir déroger en quelque sorte à ça. Si je suis une clinique privée, je peux sélectionner les malades. Je ne suis pas obligé d'accueillir tout le monde. Toc, toc, je viens, je voudrais me faire soigner de ça. Nous, chez nous, on ne soigne pas ça. Et le directeur ou le médecin de la clinique privée n'est pas mis en cause parce qu'il n'aura pas pris telle pathologie. Alors qu'à l'hôpital, ce n'est pas possible. Je suis dans l'obligation d'accueillir tout le monde, de prendre en charge tout le monde et de prodiguer les soins à tout le monde. Donc, il y avait cette partition-là. L'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles viennent l'une en complément de l'autre, mais avec un rôle prédéfini, au niveau de l'hôpital public. Or, la loi hôpital, patient, santé, territoire fait voler en éclats ça et dit finalement tout le monde va pouvoir remplir la mission de service public. On va mettre quelques critères. Or, on sait parfaitement bien du côté du secteur privé lucratif qui par définition est là pour rémunérer notamment les actionnaires qui prennent un risque en investissant dans la clinique, que les critères d'exigence pour prendre en charge tout le monde, etc., vont voler en éclats dès lors qu'on aura signé la convention et ils en feront qu'à leur tête. Et dès lors qu'ils auront eu l'appropriation du service public pour les fins qui les intéressent, ils ne respecteront pas ni les obligations qu'il y a d'accueillir tout le monde ou au moins une proportion de personnes, quelle que soit leur capacité de financement, ni sur l'obligation de prendre en charge les personnes qui sont bénéficiaires de la CMU, etc. Il y aura, de manière directe ou indirecte, un tri sélectif qui sera fait parce que l'intérêt qu'il y a pour le secteur privé lucratif, c'est d'opérer une captation de la clientèle pour rémunérer les actionnaires. À telle enseigne, dans les cliniques privées à but lucratif, on ne sait pas, on ne connaît pas la nature des financeurs. Ça change d'un matin à l'autre. Un coup, c'est le fonds de pension de ceci qui fait ça. Un autre coup, ça a changé, c'était l'autre financeur. Et on ne sait pas qui finance finalement, qui est derrière ça. Le seul point commun qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il y a des exigences fixées par les actionnaires de faire un résultat, un retour sur investissement à deux chiffres, à plus de 15%, pour assurer la viabilité des investissements qui sont faits. Donc ça nécessite, ça impacte forcément la manière de soigner, la manière d'accueillir les gens et de calculer quels sont les soins qui vont permettre de réaliser ces objectifs. Donc on nous dit, terminé, tout le monde va pouvoir remplir comme si on était en dehors du temps et de l'espace. C'est ce que nous appelons le mariage de la carpe et du lapin, et on dénature complètement les choses. Deuxième chose, on dit on va, là encore, revoir la gouvernance interne, là, ça fait partie de la phraséologie, comme c'était décrit tout à l'heure, qui est utilisée. Il y a tout un tas de mots et de vocables qui sont utilisés, qui permettent de noyer le poisson. C'est un peu comme en médecine, quelquefois, on utilise des mots savants, ça permet de pouvoir embrouiller le malade, qui reste bien dans sa position d'infériorité, il ne comprend rien à ce qu'on lui dit et s'en remet à la pleine confiance du médecin. Alors le médecin, il est là, bien sûr, il soigne. Mais là, c'est pareil, on nous embrouille avec tout un tas d'expressions dont on a un petit peu de mal à comprendre, ces histoires de gouvernance interne, etc. Et donc là, on nous explique, donc il va falloir manager. Effectivement, il faut un patron à l'hôpital. Bon, ma foi, qu'il y ait quelqu'un qui dirige, c'est peut-être pas plus mal. Établissement comme le CHU de Poitiers, ça doit être 3600, 3700 personnels sans les médecins. Avec les médecins, on doit être à 4000, 4002 à peu près. Il faut quand même organiser ça. C'est une grosse boutique. Il y a une multitude de spécialités. Et donc, qu'il y ait quelqu'un qui dirige ce grand bazar et qui fasse travailler ensemble de fortes personnalités, quelquefois des intérêts divergents, et qu'il y ait un patron et qu'il ait une réelle capacité de prendre des décisions, en soi, ce n'est pas stupide. Sauf que là, on nous explique que derrière ce vocable, il faut un patron. La notion de patron, manager, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre en place les bons systèmes qui ont fait leur preuve. Et quels sont les bons systèmes qui ont fait leur preuve? C'est, par définition, les systèmes privés. Si c'est public, c'est forcément mal géré, c'est forcément dispendieux, c'est forcément désintéressé. Donc, si on met en place un système privé, c'est par définition les bons. Et on nous a plaqué derrière le patron, eh bien, les mêmes termes qu'on utilise notamment dans les sociétés anonymes. On a remplacé le bon vieux conseil d'administration, ça faisait un peu vieillot, par un conseil de surveillance. On met en place un directoire. Mais derrière ces vocables, en plus, ce sont des choses qui sont mal assumées parce que ce ne sont pas les mêmes conseils de surveillance et directoires qu'on peut avoir dans une société anonyme parce que là, il n'y a pas d'actionnaire. Et ceux qui sont dans le conseil de surveillance n'ont pas la capacité de lever quoi que ce soit d'un point de vue des tarifs pour financer l'hôpital. Et ceux qui sont dans le directoire ne sont même pas nommés par le conseil de surveillance. Mais on continue de nous induire des terminologies comparable au secteur privé pour nous expliquer que finalement, ça, ce sera par définition bien géré. On nous a fait le coup déjà en 2003 avec la nouvelle gouvernance. On nous a dit c'est la DRDDR, on va sauver l'hôpital. 7 ans après, plus de la moitié des établissements publics de santé sont en déficit et ont du mal à tourner comme il faut. Donc, on continue. On continue, y compris, à imprimer ça et à nous faire sauter les notions et les valeurs du service public au travers d'une mesure qui, je crois, est une des mesures les plus importantes de cette loi pour faire péter le service public. C'est la mise en place du statut de praticien clinicien. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? Praticien clinicien, il y a la possibilité de recruter un médecin qui va négocier son contrat de gré à gré avec le directeur. Le directeur va lui fixer des objectifs et des résultats à atteindre. Et en fonction de sa capacité à réaliser ses objectifs et à atteindre ses résultats, il aura une rémunération qui sera adaptée. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une part variable importante dans le cadre de ce contrat de praticien. Et donc, si je remplis les objectifs, si j'atteins les résultats, je vais avoir ma rémunération qui va décupler. On nous explique que c'est pour faire la concurrence, compte tenu des problèmes de démographie, de concurrence qui est exercée par le secteur privé lucratif qui paye très bien ses praticiens, etc. Pour attirer les médecins et les garder, on met en place ça. Sauf que quand je suis assigné à une obligation de résultat avec un certain nombre d'objectifs, dès lors que je vais recevoir la personne, le patient dans mon cabinet, je suis de toute façon, peu ou prou, impacté par cette affaire-là. Et je vais donc, bien entendu, examiner, recevoir ce patient, mais avec quelque part, dans un coin de mon cerveau, forcément, la question qui tue, non pas le malade, mais moi, ma rémunération, est-ce qu'il va concourir, est-ce qu'il va me permettre de réaliser mes objectifs et d'atteindre les résultats qui me sont assignés. Et on voit là qu'on dénature complètement la notion de service public. La relation qui fait que dans le cadre du service public, on a une relation, entre guillemets, désintéressée, et on s'attaque bien au problème de la personne en sortant de ces connivences financières. Donc là, on dénature. Et je pense que c'est une des mesures vraiment très importantes qui, à terme, est vraiment de nature à transformer fondamentalement le service public. Parce que ça aura des conséquences sur l'ensemble de la chaîne des soignants. Puisque pour réaliser ça, je vais bien entendu demander aux équipes avec lesquelles je travaille de concourir à atteindre ces résultats et à réaliser ces objectifs. Donc, je vais demander à ce qu'on améliore la production de soins, etc. On nous a sorti ça de mesures d'intéressement, effectivement. On nous met ça dans le politiquement correct. Hein. C'est de l'intéressement collectif, tout le monde touchera la même chose, etc. On est dans un système, on nous dit la sécu est en déficit. Si vous êtes en capacité de réaliser des économies, plutôt que de les verser dans les déficits de la sécurité sociale, non, vous allez vous répartir une partie de ses bénéfices. Et après, on nous parle de moraliser le financement. Donc, on voit les mesures de nouvelle gouvernance, et je pourrais comme ça citer un certain nombre d'autres mesures qui sont mises en place, servent la mise en place de systèmes de gestion qui préparent l'hôpital public, finalement, à verser du côté du secteur privé. Du reste, il y a eu quelques expressions jusqu'à il y a encore 2-3 ans d'un certain nombre, y compris en interne à l'hôpital public, de transformer les établissements hospitaliers en établissements publics à intérêt industriel et commercial, ce qui en dit long sur la volonté de changer la nature même des établissements. Donc, selon développement, pour dire, il y a à l'intérieur de cette loi un certain nombre de ressorts qui changent fondamentalement la notion du service public sans que cela ne fasse un quelconque objet de débat dans la nation, sans pour autant que les choses ne se soient faites, ne s'aient été faites de manière transparente après qu'il y ait eu un débat. Et toutes les enquêtes d'opinion démontrent l'inverse. Les Français sont attachés, qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas à l'hôpital public, sont attachés à l'hôpital public. De par les valeurs, la sécurité qu'il représente, l'accès aux soins et aux soins les meilleurs, de meilleure qualité qu'il procure, Du reste, les premières mondiales qui sont faites, etc., elles sont faites à l'hôpital public, dans les CHU, donc qui démontrent sa capacité à être efficace. Deuxième chose qui change fondamentalement la donne, c'est sur la sécurité sociale. Cette loi change profondément la sécurité sociale, là encore, sans que cela n'ait fait l'ombre d'un début de commencement de débat public. La mise en œuvre de ce qu'on appelle les agences régionales de santé, les ARS, qui, là encore, pour le commun des mortels, ça représente une espèce d'entité technique, ARS, ARH, tout ça, pour bon nombre de nos concitoyens, c'est du pari au même, on n'y connaît rien, et bon, à part un sigle, qu'est-ce que c'est ? On était dans un système, pour faire court et schématique, jusqu'à présent, où on avait l'ARH, l'agence régionale de l'hospitalisation, qui s'occupait de toute la partie hospitalisation pour l'organisation des soins, hospitalisation publique et privée. Et de l'autre côté, pour faire court, la sécurité sociale, au travers notamment les caisses régionales d'assurance maladie et les URCAM, dont nous avons le président qui est en fin de mandat, faute d'URCAM, donc, qui, là encore pour faire court et schématique, a en charge le secteur libéral, le conventionnement, veiller au conventionnement, en médecine de ville, suivi et les autorisations en matière d'organisation du secteur libéral. Donc, une partition, l'État s'occupe de la partie hospitalière, hospitalisation publique-privée, sur les régimes d'autorisation, on veut un scanner, et bien c'est l'État qui, au travers de l'ARH, donne l'autorisation après un certain nombre de consultations. Je veux un pôle de cancérologie au CHU. C'est l'État qui a la responsabilité d'eux. Par contre, pour tout ce qui est de l'organisation de la médecine libérale, la régulation, comment on met en place les systèmes de garde, etc., pour faire court et schématique, c'était la sécurité sociale. Et ça, cette partition-là, ce réseau permettait de conserver au niveau de la sécurité sociale justement toute la partie de ce qu'on appelle la gestion du risque, la partie répartition, achat de soins, etc. Or là, au travers cette loi, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit non, pour organiser la santé, il faut mettre tout le monde dans le même panier pour pouvoir organiser tout ça, et on va mettre tout ça sous le coup d'une seule et même entité, l'Agence régionale de santé, donc l'ARS. Et l'ARS, c'est la résultante de la fongibilité des services de l'État, donc représentée notamment par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et la sécurité sociale, puisque une partie des CRAM, donc les URCAM, intègre l'ARS. Et on met tout le monde dans la même entité, le tout dirigé par un directeur général d'ARS, nommé, comme ça a été indiqué tout à l'heure, par le Conseil des ministres. Donc, c'est ce que nous appelons une forme d'étatisation de la sécurité sociale. Et on met dans les mains d'une personne des pouvoirs très importants qui globalisent l'ensemble de l'organisation des soins à l'échelon de la région. Et cette organisation des soins ainsi faite à l'échelon de la région, dans les mains de l'ARS, est pleinement sous-tendu à ses objectifs financiers et comptables qui sont assignés à l'ARS et qui va mettre en œuvre pour rentrer dans les clous des dépenses, de l'évolution des dépenses d'assurance maladie, les diverses mesures avec les régimes d'autorisation, les nominations, avec des pouvoirs contraignants sur les directeurs d'hôpitaux en disant si vous ne réalisez pas vos objectifs, je vous démets et je mets en place un système contraignant pour vous obliger à réaliser l'équilibre financier, etc., etc. Donc, on dénature complètement et on ne fait plus une approche de soins et de l'organisation des soins pour répondre aux besoins de la population, mais pour répondre à des objectifs comptables et financiers qui, là encore, prennent le pas sur tout le reste. Donc, quand on voit évolution de la gouvernance, évolution du service public, évolution des systèmes de prise en charge, on voit que tout ça concourt non plus à cette approche humaniste du soin, mais à une approche purement financière, à une approche purement comptable. Et là, on s'aperçoit, après coup, de l'inefficacité de ces différentes démarches qui ont été entreprises depuis 20 ans. Quand on examine la situation, on voit problème de démographie à régler. Sur les seuls secteurs, par exemple, paramédicaux et infirmiers, on a en France, grosso modo, tout secteur confondu, hospitalisation publique, privée, secteur libéral, entreprise privée, 500 000 infirmiers. On en a la moitié qui, d'ici 2015, vont partir à la retraite. Donc on en a 200-250 000 qui vont partir à la retraite. Les capacités de formation nous conduisent, c'est reconnu y compris par les pouvoirs publics, à un déficit dans les 5 à 7 ans à venir de 100 000 professionnels infirmiers en France. C'est-à-dire qu'on va raréfier le nombre de personnels infirmiers, et si on raréfie le nombre de personnels infirmiers, on va de facto avoir un problème d'organisation, de dispensation des soins, et donc être amené à avoir un certain nombre de coupes réglées sur l'organisation des soins. Et dans le même temps, on veut transférer une partie, ce qui est prévu dans la loi hôpital, patients et territoire, une partie des compétences médicales pour régler les problèmes de démographie, là encore pour faire court et simple, donc des partages de compétences. Donc on va demander aux personnels paramédicaux de faire une partie des actes qui sont actuellement dévolus exclusivement au corps médical. Donc on voit que ces logiques comptables sont certes très élaborées, mais très inefficaces, et conduisent à de forts déficits, à de fortes difficultés. Et quand on se réveille, c'est quelquefois un petit peu trop tard. Je vais vous conter une petite anecdote. J'ai un ami qui devait se faire opérer ce matin, problème cardiaque, il a programmé un pontage, etc. Donc il va à Bretonneau, à Tours. Il arrive hier soir, prend possession de sa chambre, va faire sa douche comme il se doit, la prémédication qu'il faut, il passe la nuit, on lui prend ses constantes. Ce matin, 8h30, on commence à badigeonner, on met les produits qu'il faut, etc. On vient le voir une demi-heure après. Ah, monsieur, on s'excuse, vous allez rentrer chez vous, on ne peut pas intervenir. Pourquoi donc ? Eh bien, on a un certain nombre d'urgences, il y a deux grèves qui sont arrivées, etc. Et compte tenu du fait que nous sommes à flux tendu, compte tenu du fait que nos capacités au niveau des blocs opératoires sont saturées, on ne peut pas vous prendre. Revenez nous voir dans un mois, on vous donne rendez-vous au 27 avril prochain. Telle est la conception de l'efficience, telle est la conception du résultat économique, avec les conséquences que ça a directes sur l'accès aux soins, sur la capacité à pouvoir obtenir des soins en temps et à heure. Il faut bien sûr mesurer les dégâts que ça produit sur la personne qui s'est mise en condition, parce que ce n'est pas simple d'accepter de se faire opérer, etc. Qu'est-ce que ça produit ? Mais tout ça, c'est passé pour perte et profit. La seule chose qui est intéressante dans cette affaire-là, c'est la ligne retour sur investissement. C'est est-ce que j'ai bien satisfait aux objectifs et aux résultats ? Donc, l'ensemble de cette mécanique mérite qu'elle soit à tout le moins exposée et connue, et qu'elle puisse faire l'objet d'un véritable débat, parce qu'il ne nous semble pas que nos concitoyens attendent, en matière de santé à tout le moins, ce type de prise en charge, ce type d'approche. Et vous l'avez certainement expérimenté, quand on cherche un médecin de garde, maintenant, dans beaucoup de villes, eh bien, on fait le numéro, soit on est renvoyé sur la régulation, donc au centre 15, on a derrière le centre 15 que l'on appelle un PARM, un permanentier auxiliaire de régulation médicale, qui est une personne qui prend l'appel téléphonique, qui va vous écouter, qui va vous poser une série de questions de par un protocole qu'il a sous les yeux. Il va cocher les cases. En fonction du nombre de cases qu'il aura cochées, il va voir le médecin régulateur et qui va lui dire ben, « effectivement, je vais prendre la personne » ou alors il va donner deux, trois indications de première. Voilà. C'est ce type de prise en charge. Qui certes à 80% répondent, et on s'autorise un certain nombre de pertes. Le tout est de ne pas se situer dans ce pourcentage de pertes et que ça ne tombe pas dessus le jour où on n'a pas la bonne réponse téléphonique. Alors effectivement, les contestations qui se sont exprimées à l'encontre de cette loi hôpital, patients, santé, territoire ne peuvent être réduites au simple problème de gouvernance et de quelle place le chef de service prend dans la décision, dans la codécision avec le directeur. Ce sont des enjeux qui vont très largement au-delà de ça et qui méritent d'être connus de tous et qui méritent au moins d'être mis à la contradiction.
Merci Didier Bernus. Maintenant, on va passer à une phase de discussion avec la salle. Donc, on va faire circuler un micro. C'est Patrick Bouet qui s'en occupe.
Oui, le résultat là, de toutes ces lois de l'hôpital, là, où on cherche sans arrêt à combler un trou qui ne cesse de grandir, est-ce qu'il ne manque pas non plus une grande réflexion sur le système de santé en France qui est uniquement basé sur le soin et non pas sur la santé des gens ? Ce qui pose quand même un gros problème, puisque vous l'avez dit vous-même, la petite grand-mère de 90 ans qui va venir pour une prothèse et puis qui est pleine d'escarres, on peut se poser la question si la prothèse, c'est vraiment la seule solution. Donc, y a quand même un gros problème de prévention et un gros problème de santé. C'est-à-dire qu'on est dans un axe où on est en admiration devant la technologie, de la technologie médicale. On en fait de plus en plus. On nous montre à la télé les magnifiques robots qui viennent de servir, qui viennent de sortir, alors qu'en pourcentage, je pense quand même que ça va soigner pas tant de gens que ça par rapport aux 60 et quelques millions de Français. Donc, voilà, c'était ma question.
Bon, sur ça, c'est pas un sujet simple. Au fond, on pourrait dire que les ARS, elles visaient justement à gérer ensemble la prévention, le soin, le social et la santé, de même que sur le territoire, il y a un concept qui, au fond, pourrait être positif. Alors, néanmoins, il faudrait faire deux choses. Un, dans ce que vous dites, il y a qu'est-ce qui sont les critères de bonne santé d'une population ? Alors, la première chose n'est pas de l'ordre du domaine du système de santé. La première chose dépend de la société elle-même. Alors, j'ai lu, j'en parlais tout à l'heure, un bouquin d'un Anglais qui s'appelle Wilkinson, qui travaille depuis des années, qui est un chercheur, sociologue de la santé, sur le fait que, quand on est, encore une fois, dans les pays développés, qu'on a franchi un certain seuil, le degré d'inégalité sociale de la société est un déterminant majeur des résultats de santé de cette société. Autrement dit, plus vous avez d'inégalités, plus vous avez de violence dans la société, plus vous avez de frustration, plus vous avez de troubles du comportement, plus vous avez d'obésité, plus vous avez de complications cardiovasculaires, plus vous avez de suicides. Et c'est vrai quand on compare des États américains les uns avec les autres. Donc c'est un truc très... Autrement dit, dans les sociétés développées, il y a une réflexion à avoir sur quel est le degré d'inégalité optimale. Il ne s'agit pas de supprimer l'inégalité, mais de réduire. L'augmentation des inégalités est un facteur d'altération de la santé, y compris pour les couches supérieures de la société. Vous pouvez mettre des barbelés, mais vous ne ferez pas en sorte que la drogue, qu'un certain nombre de choses se développent, y compris dans les couches sociales supérieures de la société. Donc là, ça renvoie encore par le biais de ce que je vous dis, c'est que typiquement ce qui se passe dans les États américains. La deuxième chose, c'est que dans la prévention, il faudrait séparer ce qui relève d'une prévention de technique. Parce qu'il ne faut pas couper complètement. C'est-à-dire que, attendez, le dépistage du cancer du côlon, la campagne qui est menée, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas menée. La campagne sur le... même le tabac, des campagnes comme ça sont nombreuses. Les traitements des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est des sommes colossales avec des résultats très importants. Hein, le taux d'infarctus du diabète est en train de s'effondrer, même s'il reste important en raison de l'épidémie, mais rejoint celui de la population générale, grâce au traitement de l'hypertension, aux statines. Vous savez que les statines, très bien, mais c'est en vente libre en Angleterre. Vous allez en Angleterre, vous n'avez pas dosé votre cholestérol, vous demandez 10 mg de simvastatine, vous l'achetez. Bon, aux USA, pas question parce que médico-légal, et en France, pas question parce que trop de la sécu. Chacun, avec sa culture, répond. Et les Anglais répondent différemment. Là où la prévention est très très faible, c'est quand il s'agit de problèmes sociaux, de comportements, c'est-à-dire la destruction des comportements alimentaires, notamment dans les couches défavorisées de la solution, les populations migrantes qui vont faire l'obésité dramatique qui est en train de se développer en France chez les enfants. Bon, donc, alors ensuite, il y a une autre notion qu'il faut avoir. Parce que c'est un continuum entre prévention, santé. Quand est-ce que ça commence, le soin et la prévention? Un certain nombre de diabétiques, ils disent, mais attendez, je suis pas malade. Je fais de la prévention pour ne pas avoir les complications. Bon, ils ont raison. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on dit, la formule générale, vous payez en fonction de vos moyens, vous recevez en fonction de vos besoins, c'est une entourloupe de besoins socialement reconnus. Ce n'est pas vos besoins perçus. Et ça, la société, par contre, libérale, vous fait parler de vos besoins personnels, de besoins socialement reconnus. Au fond, la société a décidé à un moment de rembourser des cures thermales. Peut-être qu'elle pourrait rembourser la thalassothérapie, ça, je comprends bien. Vous êtes bien, après. Hein, bon, donc, évidemment, ça pose la question de où est-ce qu'on met la barre? Où est-ce que vous mettez la barre de la solidarité rembourse et de la solidarité rembourse pas? Ça, c'est un des débats. Dans la régulation publique, vous l'aurez. C'est-à-dire, vous trouvez petit. Vous pouvez mettre des talonnettes. Mais vous pouvez aussi faire des injections d'hormones de croissance. Ah ben, attendez, on ne va pas mettre tout le monde à la même taille. Alors, par contre, c'est quelqu'un qui fait partie du... Alors, vous dites, oui, mais là, c'est quand même un anisme. Alors, ça, on va quand même le... Ou c'est un très grand, ça, on va le rembourser. Vous remboursez ou vous ne remboursez pas? Où est-ce que vous mettez la limite? Et c'est un vrai débat. Et c'est un débat, au fond, dans lequel les experts, médecins, etc. peuvent donner leur avis. Mais c'est la société de trancher, quelque part, sous des formes adaptées. Hein, qui est dire, ça, c'est la solidarité. Et ça, ça ne l'est pas. Et dans le développement de sociétés très développées qu'on a, nous, ben, ce débat, il existe. Il ne faut pas l'escamoter. Hein. C'est pas tout est remboursé. Voilà. Alors, voilà, donc je crois qu'il faut le prendre en séparant les niveaux. Hein. Ce qui relève du travail, des dislocations sociales, là, on est vraiment très mauvais. Quoi. Ce qui relève des préventions de dépistage du cancer, il y a des progrès colossaux qui sont faits, il ne faut pas le nier, autrement, on nie une réalité. Quoi, hein. Mais, voilà. Hein. Donc, au fond, je suis d'accord en partie avec vous, mais je trouve que c'est un sujet complexe.
Dans toute la partie prévention, il y a aussi une partie ou sur l'état de santé de l'accès aux soins. Et on voit qu'il y a une partie de la population qui a une difficulté d'accès aux soins. Quand, par exemple, on met en place une vignette supplémentaire, qui ne sera pas remboursée sur les boîtes de médicaments, etc., ou quand je suis obligé qu'on retire le tiers payant à certaines, donc je suis obligé de faire l'avance, même si je suis remboursé, il y a un certain nombre de ménages qui n'ont pas les moyens. On a des enfants en bas âge, c'est pas rare, c'est une semaine, une fois par semaine, il faut emmener l'enfant voir le médecin, il fait une rhino, il fait ci, il fait l'est. Eh ben, j'y vais une fois, deux fois, trois fois, je me retrouve avec finalement consultation et médicaments, 300 euros derrière. Même si on me les rembourse à 100%, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la trésorerie de sortir ces 300 euros. Et donc, je ne vais pas consulter parce que je n'ai pas les moyens d'avancer l'argent. Et ça, ce sont des vrais sujets. Il y a un certain nombre d'orientations qui sont prises, qui privent d'accès aux soins une partie de la population. Quant au niveau... hospitalier, pour y compris public, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, d'une consultation. Si je vais au secteur privé, je vais pouvoir avoir une consultation dans des délais rapides. Si je n'ai pas ces moyens-là, je vais avoir des délais. En France, il n'y a pas de liste d'attente comme en Angleterre. Enfin, il y a des délais d'attente qui valent largement les listes d'attente anglaises. Hein. On sollicite beaucoup plus les gens qui travaillent à l'hôpital pour obtenir une consultation que pour trouver un boulot à l'hôpital. Donc il y a un véritable problème d'accès aux soins. Quand dans certaines grosses villes, on ne trouve pas de médecins libéraux qui soient dans les tarifs conventionnés, ils sont tous en dépassement d'honoraires, ça va de 2 euros jusqu'à 10, 15, 20 et plus encore, et chez les spécialistes, il y a un véritable... Et cet accès aux soins est une des parties de la prévention. Parce qu'il y a un certain nombre d'affections bénignes, je vais pour une affection bénigne, et c'est pas rare qu'à l'occasion d'un examen sur une affection bénigne, que l'on trouve quelque chose de plus important. Et donc, si j'ai ce suivi régulier, si j'ai un accès régulier, à ce moment-là, donc tout ça, tout le tissu que constituait, tout le réseau que constituaient les hôpitaux dits de proximité et qui ont été délités, limite l'accès aux soins. Et quand on a, par exemple, je vois, c'est dans le secteur de l'Aréole, à côté de Bordeaux, où il y a 15 médecins libéraux qui exercent. Sur ces 15 médecins, il y en a 10 qui vont partir là à la retraite. Et on sait très bien qu'on ne va pas trouver d'autres médecins. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de fermer un certain nombre d'activités de cet établissement et que les médecins ne veulent pas s'installer là parce qu'ils n'ont pas la couverture que représente l'hôpital. Quand ils ont une affection un petit peu plus importante, et ils peuvent se retourner du côté de l'hôpital pour sécuriser leur diagnostic, etc., etc. Donc on voit qu'il y a tout ce tissu-là qui est délité, donc, et qui concourt, y compris donc, à la question de la prévention, qui part en vrille. Je ne ferai pas un long discours. Tant qu'on aura Coca-Cola qui pourra faire sa pub Coca-Cola avec la petite mention bienveillante en dessous, n'abusez pas trop des boissons sucrées, tout ira mieux pour dans le meilleur des mondes.
Oui, vous dites que le système anglais est efficient. En quoi il est efficient ? Première question. Et deuxièmement, qui vous écoute ? Le président ne vous écoute pas. Est-ce qu'une partie de la majorité vous écoute ou autre ailleurs ?
Non, l'efficience, c'est l'idée par rapport à des critères importants, mortalité infantile, espérance de vie, un certain nombre de critères, par rapport au coût dépensé. Alors, s'il y aura des par rapport au coût dépensé, au fond, être anglais, c'est quand même pas être dans un pays sous-développé au point de vue santé. Hein. Ils dépensent 9% de leur PIB. C'est-à-dire, en gros, les systèmes de santé de type étatique ont montré des résultats meilleurs par rapport au coût. Autre chose maintenant, si vous me dites, je suis en France, est-ce que j'ai intérêt à me faire soigner en Angleterre ? Plutôt pas. Hein ? Voilà. Hein, c'est-à-dire que, en plus, les Anglais ont d'autres rapports historiques, alors culturels, à la maison. Quand nous, on s'est mis à faire de la dialyse en France, les lords anglais pouvaient crever en Angleterre sans être dialysés, parce que, bon, voilà. Hein, ils faisaient pas le. Donc, ils ont eu beaucoup de retard dans certains domaines. Hein. Se dit par contre, ils ont par exemple dans l'épidémiologie, le fait de soigner les populations en tant que telles, ils ont un niveau de pensée, de réflexion qui est plus élevé qu'en France. Hein. Dans les dépistages en France aussi, dans la prévention, il y a des choses qui sont complètement déconnantes quand même, qui sont faites. Alors, parlons un mot de régulation publique. Ça serait quoi une régulation publique avec les professionnels ? En France, 25% de l'activité médicale est inutile. Donc il y a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire si on parlait des soins dentaires, le retard d'accès aux soins est terrible en fonction du niveau social. Ce n'est pas un petit problème. Hein, si on parle que de celui-là, mais tout le reste, effectivement. Mais par contre, on a 25% de gaspillage absolu. Alors, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez votre tour de taille, vous allez faire un test d'effort, on va trouver une petite anomalie, on va vous faire une coronarographie, on va vous mettre un stent. Ça coûte une fortune. On vous a transformé en grand coronarien. Parce que là, votre stent, il peut se boucher maintenant. Vous irez partout en disant j'ai une petite douleur, vous allez voir comment vous êtes pris en charge ultra rapide. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve que c'est utile. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve que c'est utile. En Angleterre, ils nous regardent avec des yeux comme ça. Mais par contre, évidemment, le cardiologue, lui, ça fait marcher du business. Et voilà. Et il y a la culture française là-dessus. Alors, entre. D'accord, on peut faire un régime, être super, faire du marathon, avoir la taille fine. Puis bouffer les 10 mg de Zocor génériqués que proposent les Anglais, je trouve qu'ils ont raison. Ils ont raison. Donc, donc les pacemakers en France, c'est de 1 à 4 pour la même population. La césarienne, c'est de 10% à 30%. Donc, il devrait y avoir, si on avait une régulation publique, un rapport annuel, comme la Cour des comptes, qui donne les disparités de pratiques médicales et qui dit aux professionnels, expliquez. Pas accusation, par contre, expliquer. On veut réduire cette disparité. Peut-être c'est ceux qui en font le plus qui ont raison, peut-être que c'est les autres, ou peut-être que c'est au milieu. Il y a des hautes autorités de santé, il y a 2300 médecins conseils de sécu, on doit pouvoir faire ça. Bon, ça, c'est une régulation publique faite avec des professionnels. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, et au fond, la T2A, vous pouvez multiplier des hospitalisations inutiles, vous êtes remboursé. Il n'y a aucun problème. Hein, et moi, je vois ça tous les jours. Il n'y a pas d'évaluation comparative. Il y a deux CHU qui, l'an dernier, étaient à l'équilibre, Poitiers et Limoges. Les 29 autres en déficit. Vous vous dites, si vous avez une régulation publique, la première chose que vous faites, c'est un rapport de la Cour des comptes ou d'une commission de l'IGAS. Expliquons à la Pitié-Salpêtrière qui a 35 millions d'euros de déficit, comment un hôpital bien géré comme Poitiers s'en sort? Parce que Poitiers ou Limoges est notre avenir. Nous attendons ce rapport. Est-ce qu'ils sont mieux organisés? Est-ce qu'ils sélectionnent les malades? Est-ce qu'ils font plus de recherches que nous? Quels sont leur environnement? Mais on n'a pas le rapport, parce qu'ils s'en foutent, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas leur problème. Quand j'ai dit à Mme Poder, directrice des hôpitaux, avec Zuron, elle rigolait. Je dis, mais où est votre rapport sur Limoges? Le seul hôpital dont vous nous parlez. On est bien soigné à Limoges. Ben peut-être, mais montrez-nous. Faites un rapport. C'est, et donc c'est ça, l'évaluation économique comparative. Non, on vous fait un prix unique, tarif T2A national, qu'on va mettre ensuite public-privé, en montant un peu le coût du privé, ce qui fera des bénéfices pour le privé et les actionnaires, effectivement, puis en diminuant celui du public. Hein, c'est vers ça qu'on va. Hein, en mentant, c'est-à-dire en mentant, puisqu'on nous a dit que ce sera pour 2018, et en fait, on le commence dès cette année. Alors, qui nous écoute? Mais personne, mais au fond, il y a une erreur dans la loi. L'erreur dans la loi, c'est que le quatrième échelon, c'est les médecins chefs de pôle. Or, pour le moment, ces médecins, ils sont encore fonctionnaires. Et ils sont encore avec un serment, et ils ont encore une liberté de parole. Vous ne voyez plus parler les médecins des hôpitaux privés à but non lucratif ou lucratif. Saint-Joseph, il se taise. Il m'appelle, moi, vas-y, vas-y, mais eux la ferment. Bon, il me raconte à l'Institut Montsouris, on a un logiciel pour coder au maximum, pour faire payer la sécu, mais eux se taisent. Ils me disent, Valenciennes a demandé qu'on fasse 20% à la clinique Hartmann, mais eux, vas-y, mets-lui ça dans les dents. Bon, parce qu'eux, ils sont payés, ils sont contractuels, ils sont vidables. Donc, c'est ça la réaction des hôpitaux de Paris. C'est que ça a été un peu prématuré, et donc il y a une flambée. Alors, on traite de mandarins, on va dire le truc, ils veulent son contre réactionnaire, ils veulent défendre leur pouvoir, pating, patung, ils veulent pas changer leur bureau, enfin, bon, il y a un peu de vrai, il y a beaucoup de conneries là-dedans. Hein, les mandarins, ils sont morts. Ça, c'est du baratin complet, l'histoire des mandarins. Je vous donne quelques exemples qui vous font comprendre pourquoi c'est complètement faux. Si on était des mandarins, Mme Bachelot nous aurait reçus, sans problème. Elle a refusé de nous recevoir. Bon, si on était des mandarins, on ne signerait pas un texte, 25 médecins dans le Nouvel Observateur. Monsieur Robert Debré, il signait tout seul. Pasteur Valérie Radeau, il signait tout seul, ça suffisait. Là, on se met à 25, vous savez 5. À la Pitié, il y a un grand institut cœur. Il y a 10 professeurs. Vous savez le nom du mandarin? Vous ne pouvez pas me le dire, parce que c'est un coordonnateur qui tourne. Mais si je vous dis Christian Cabrol, ah, ben oui, le professeur Cabrol, on connaît. Bon, ben voilà, ben, la génération des mandarins, elle est partie. Ben, vous comprenez bien pourquoi? Parce que les progrès techniques ont foutu tout ça en l'air. Des plus jeunes sont plus brillants qu'eux et que ça tourne. Bon, tout ça, donc... Alors, qu'est-ce qui reste? Au fond, votre question, c'est quelles sont les forces politiques? Alors, il y a trois courants qui s'affrontent dans cette histoire. C'est ça qui rend l'affaire compliquée. Il y a le courant du vieux libéralisme médical, dont les principes, vous les connaissez, les quatre principes, c'est liberté d'installation, on veut s'installer là où on veut, liberté de prescription, on veut prescrire ce qu'on veut, liberté de choix du malade, il choisit qui il veut, et liberté d'entente sur les honoraires. Alors, tout ça a été écorné, y compris écorné par la loi, mais enfin, au fond, c'est ça le cœur idéologique. C'est la petite boutique. Bon, dedans, il y a des choses, y compris éthiques, qui sont pas mal, qui sont le colloque singulier, le libre choix du malin. On peut être d'accord avec des limites, mais on peut être d'accord sur certaines choses. Et puis il y en a d'autres auxquelles on n'est pas du tout d'accord. La liberté d'installation, moi, je trouve que c'est indéfendable. Après, pas n'importe comment. La liberté d'entendre sur les honoraires, c'est scandaleux. Le malade est angoissé, vous êtes en train de pouvoir, vous êtes prêt à signer n'importe quoi. Bon. Et puis il y a un courant qui s'est développé avec la Sécu, les hôpitaux, qui sont un courant de service public. Moi, je peux représenter avec d'autres, qui est un courant attaché à l'idée du service public. Bon, dans les hôpitaux, 90% des médecins n'ont pas d'activité privée. 10% ont une activité privée, et dans ces 10%, 10% font des choses scandaleuses, mais jettent l'opprobre sur tout le monde. Donc, ce n'est pas du tout comme les cliniques privées, hein, mais ça va se développer. Et puis, il y a le néolibéralisme. C'est-à-dire les puissances d'argent dont vous avez évoqué, qui achètent les cliniques, qui les revendent, qui font des business immobiliers et compagnie, les assureurs privés qui ne veulent pas payer le coût de la santé, qui veulent prendre ce qui est rentable. Bon. Et c'est ça l'idée du président. L'idée du président, c'est, et je vous raconte une anecdote, Jean-Michel Laxalt, qui est le président de la MGEN, avait demandé à me voir. Donc je le vois, je n'ai jamais compris pourquoi il voulait me voir. Mais il me raconte l'anecdote suivante. Il me dit, nous avons été reçus, donc c'était il y a un an, cette rencontre, par le président de la République. Habituellement, quand le président de la République reçoit la mutualité française, il tient le discours suivant. Je suis heureux de recevoir un des piliers du pacte social républicain, pating patung. Là, il m'a dit, le discours était tout à fait différent. Première phrase, vous êtes aussi ici au centre de décision nucléaire. Deuxième phrase, je n'ai rien contre vous. Troisième phrase, nous avons deux choses à l'ordre du jour. Un, la refondation du mode de financement du pacte social. Troisièmement, un point technique. Nous allons parler du point technique si vous voulez bien. Et le point technique se résumait à désormais, tout est ouvert à la concurrence. D'accord ? Je lui dis, mais quelle est votre réponse ? Blanc. Y a-t-il une ligne rouge qu'on peut ne pas franchir, auquel cas vous rentrez en insurrection ? Il n'y a pas de ligne rouge. OK ? Donc tout ça rentre par le biais des mutuelles. La main sur le cœur. On est d'accord avec M. Grimaldi, bravo, etc. Solidarité, solidarité. Mais on est quand même un business concurrentiel. Et d'ailleurs, on a formé l'UNOCAM avec les assureurs privés. Et on est surpris de voir quelle concordance on a, quelle convergence. On ne pensait pas qu'on était si convergent avec les assureurs privés. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que désormais, il y aura une partie sécu, puis il y aura une complémentaire qui sera ouverte, peut-être même une partie complémentaire sécu, une complémentaire mutuelle et une complémentaire privée. Puis si on laisse, ils feront la concurrence. Et bien voilà, les coûts de santé, il faudra se la payer, sauf si on est CMU ou si c'est très très cher, parce que ça ne sera pas rentable et que personne ne le prendra en charge. Donc on c'est ça, donc on voit bien se développer comme but. Alors qui peut y résister à ça ? Et bien c'est transcourant. Ce n'est pas gauche-droite cette histoire. Ce n'est pas gauche-droite. Moi avec moi chez les médecins, c'est un certain nombre qui sont de tradition gaulliste, par exemple, qui ne supportent pas. Bon, vous avez Jacques Attali, que je crois savoir est toujours membre du PS, qui nous a fait une tirade, une violence contre nous, incroyable. On était des vieux cons qui n'ont rien compris au développement du profit dans la santé, qui est l'avenir de la santé. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je pense que c'est un débat de société qu'on ne classe pas facilement, qui est, bon, en gros, est-ce que les acquis de 45, 58, la réforme des hôpitaux, ça a été en partie ça ? Est-ce qu'on prolonge ça en le modernisant, en l'adaptant ? Ou est-ce qu'on change ça dans tout ce qui est le grand chambardement mondial, quoi ? Donc ça ne recoupe pas les choses simplement. En tout cas, dans le monde médical, je peux vous dire que ça ne recoupe pas les étiquettes politiques, bien que le gouvernement cherche à mettre les étiquettes politiques.
Oui, une question sur l'installation des jeunes médecins. On sait qu'environ plus d'un tiers ne s'installe pas aujourd'hui. À votre avis, quel serait l'effet déclencheur pour qu'ils aujourd'hui prennent comme ce mode d'installation ? Aujourd'hui, ils sont plutôt tentés de faire du remplacement en cabinet et se suffisent de ça d'ailleurs. Hein, on en voit un certain nombre tourner aujourd'hui. Et puis j'ai une autre forme de question, c'est sur la dernière intervention du député Bure qui est en train de demander la réinstallation de dispensaires dans certaines villes. J'ai lu ça très dernièrement. Ne pensez-vous pas qu'on est en train de rejoindre une époque qui n'est pas si lointaine, dont parlait tout à l'heure Monsieur Bouet sur la naissance des hôpitaux.
Moi, je vais me défier, oui, répondez, parce que je vais me défier de votre question.
Sur la deuxième partie, on est obligé de faire le constat que de créer des grands centres hospitaliers, un très gros centre par région, des pôles satellites dans chacun des départements est très insuffisant. C'est d'autant plus insuffisant que le reste du réseau de soins est affaibli en conséquence de l'évolution de la démographie médicale. Donc, comme on a délité sans prendre en considération les effets de la démographie, on voit qu'on est allé trop loin. Donc, il faut maintenant finalement faire un coup de balancier dans l'autre sens. Comment on fait pour l'accès aux soins dans les quartiers, notamment dans les quartiers où aucun médecin veut aller s'installer parce que ce sont des quartiers qui sont difficiles. Comment on fait dans les zones rurales alors qu'un certain nombre de médecins ne veulent plus faire des gardes à rallonge, etc., etc. Donc il faut trouver des palliatifs. Les dispensaires, qu'on appelle ça dispensaires ou autres pourquoi pas, c'est quelle est la place que va prendre la puissance publique pour permettre un accès aux soins de qualité à toute la population, pour tendre vers une égalité d'accès. Voilà. C'est quelle réponse? Et bien entendu que les députés vont être obligés d'amener ces éléments de réponse parce qu'ils sont sollicités par leur mandat. À leur permanence, ils reçoivent fatalement la personne qui n'a pas pu avoir le soin et il va avoir la pression. Donc, il faut trouver ces palliatifs. Donc, ces palliatifs, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, si on le laisse uniquement par une régulation en dehors de la puissance publique, eh bien, on sait très bien que ça va conduire encore vers une sélection du soin pour voir est-ce que ce sera rentable, etc. Si on met que des critères d'efficience, donc de comptabilité, et de voir est-ce qu'on va équilibrer financièrement cette affaire-là, on n'amènera pas les bonnes réponses. Si on dit qu'on est prêt à reconsidérer ça pour se départir un peu de cette approche comptable et pour amener des éléments de réponse, alors on pourra trouver effectivement là des structures, que ce soit sous forme dispensaire, que ce soit sous forme de points d'accueil dans des hôpitaux de proximité qui existent, etc. etc. Donc, quel est le choix qui est fait? Et on sait très bien que ce n'est pas la partition et on ne prend pas le chemin avec la globalisation que représente l'Agence régionale de santé. On ne prend pas ce chemin-là. On va continuer d'accentuer justement cette parcellisation et rémunérer là où ça fait, où ça va consommer le plus, là où ça va prendre. Et puis s'il en reste, on verra pour distribuer sur les petits centres.
Le bémol, je dirais, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ferait, on répondra à toutes les questions. Hein. Je ne suis pas sûr que vous me donnez le pouvoir, les moyens, le machin, et alors, parce que c'est compliqué quand même. Hein. Ce qui est sûr, c'est que, en gros, quand même, l'exercice solitaire de la médecine, c'est quand même dépassé. Ça ne correspond plus à l'exercice moderne de la médecine. Alors, donc il faut créer des groupes. C'est-à-dire, si on veut, faut pas penser à des individus, il faut des groupes. Et des groupes dans lesquels il y a médicaux et paramédicaux. Si vous avez une qualité d'exercice professionnel aujourd'hui, il faut pouvoir aussi se réunir et pas seulement faire de l'acte. Il faut pouvoir échanger des dossiers, il faut avoir une logique de formation. Ce qui a fait le succès de l'hôpital, qui est en train de décliner, c'était l'idée d'avoir des staffs communs, d'inviter des gens, d'avoir un niveau intellectuel, d'excitation intellectuelle, de participer à un progrès, de pouvoir descendre voir le collègue disant « Écoute, j'ai un mat difficile, viens avec moi, on discute. » Bon, sans regarder sa montre et sans dire « T'es deux ans. » Donc, bon, l'idée centre de santé, c'est une bonne idée. Maintenant, si c'est pour seulement faire des cabinets côte à côte pour pouvoir se répartir les week-ends, etc., c'est vraiment du minimum. Bon, c'est pas une nouvelle exercice de la médecine. Ça supposerait aussi penser aussi comment le mode de rémunération, le paiement à l'acte, est totalement inadapté à la maladie chronique. Hein? Alors, ça fait aussi qu'on manque de médecins parce qu'aussi un diabétique en France est vu 9 fois par son médecin généraliste. Mais il y en a qui ont besoin d'être vus tous les mois, mais d'autres qui ont besoin d'être vus tous les 6 mois. Simplement, si vous voyez tous les 6 mois, c'est une demi-heure, et c'est 22 euros. Donc vous le voyez tous les mois 5 minutes. Ben, vous menez votre niveau de vie grâce à ça. Bon, c'est stupide. Bon, mais quand vous faites un métier stupide, la motivation baisse aussi. Vous ne le faites que pour le fric, alors vous dites, vous êtes fatigué à la fin de la journée. Au lieu d'avoir fait moins, mais d'avoir un sentiment fort. Donc tout ça rentre dans des cercles vicieux absolument incroyables, hein, qui s'intriquent. Parce que faut pas tomber non plus sur le vieux con qui dit que les jeunes... moi, je ne supporte pas ce discours. Les jeunes ne croient plus à des valeurs comme ça, publiques, machin. Bon. Garde à l'hôpital, tout le monde est choqué, les vieux, ma génération. Comment ils prennent pas leur garde? C'est scandaleux. Il y a un administratif presque à plein temps pour leur rappeler leur garde. Alors tout le monde est là, c'est honteux. Quand la moyenne d'âge, plus de 60 ans. Là. Et puis après, on parle des internes dans nos services. Oh, ils sont géniaux, ils restent là jusqu'à 8h30 le soir, fantastique. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont dans un donnant-donnant et pas dans les grandes valeurs. Ça, c'est vrai. Hein. L'idée de valeur publique, de la garde, c'est un devoir, rien du tout. La garde, c'est pas un devoir. Bon. Donc ça, c'est un changement réel. Mais enfin, en gros, c'est qui accuse les aînés, pas qui accuse les jeunes. Bon, moi, je dis, il y a eu... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une certaine hétérogénéité. Il y a mieux qu'il n'y a jamais eu parmi les jeunes et moins bien qu'il n'y a jamais eu. C'est-à-dire une hétérogénéité qui est plus grande. Alors, bon, comment construire tout ça, comment faire des centres de santé qui aient un sens pour eux, comment faire des choses qui sont transitoires, au fond, parce qu'il y a aussi des infirmières qui veulent être intérimaires et qui réclament ça. Moi, j'arrive mal à comprendre. Hein. Mais en France, vous ne pouvez pas faire une carrière d'infirmière clinicienne. Moi, j'ai 4 infirmières qui suivent des patients. Je leur dis, vous ne piquez plus, vous ne faites pas tout ça, vous êtes spécialisée dans le diabète. Ça fait 10, 15 ans et 20 ans qu'elles bossent là-dedans. Vous allez suivre des patients. Et on les suit en commun. Bon, elles ont un niveau, elles téléphonent, etc. Elles ont quoi comme reconnaissance professionnelle? Ça n'existe pas. Vous pouvez être que cadre infirmier de gestion, mais une infirmière clinicienne de haute expertise, ça, ça n'existe pas. Bon, donc, il y a tout ce chantier-là, mais vous posez des questions complexes où moi, je dis, je n'ai pas réponse. Hein. Je suis un médecin hospitalier, j'ai une vision très partielle de l'affaire, quoi.
Je ne suis pas médecin, moi j'enseigne à l'université, et ce qui m'a frappé, c'est la concordance entre la réforme actuelle de l'université et la réforme de l'hôpital. Ça m'a frappé au niveau un patron unique, un grand patron, qui est là pour réguler les fortes têtes, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Deuxième chose, c'est les primes d'excellence, il n'y a plus de motivation intrinsèque, mais en effet on va vers la motivation financière. La troisième chose, le marché de l'angoisse, on y est aussi, puisqu'on est sur le marché de l'angoisse des parents pour l'insertion de leurs enfants, et que donc, à travers ça, on en profite. Les référentiels d'activité, c'est aussi en train de nous tomber dessus.
Bienvenue au club.
Voilà. Alors, sur cette concordance, moi, j'avais une question sur est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces réformes des services publics? Et notamment, est-ce que le lien, on peut le faire avec le traité de Lisbonne? Alors, je sais bien que c'est une question un peu bateau. À votre avis, est-ce qu'il y a un lien à faire? Est-ce que c'est indépendant? Est-ce qu'en effet c'est le néolibéralisme qui est en train de s'appliquer dans cette destruction des services publics et dans la nouvelle dénomination de services d'intérêt général avec des délégations privées? Juste une remarque sur la mutualité française, j'avais une question là-dessus mais vous l'avez un petit peu anticipé. Je pense en effet que la mutualité française aujourd'hui joue un rôle très très ambigu et qu'elle risque de servir de cheval de Troie aux assureurs. Et j'irai même plus loin que vous, je dirais qu'actuellement elle est très contente de ce qui se passe, parce que c'est une revanche par rapport à 1945, c'est-à-dire qu'elles ont pas, la mutualité française n'a pas apprécié en 1945 d'avoir été éjectée de la gestion des caisses d'assurance sociale, et qu'aujourd'hui elle retourne par cette porte-là, mais elle ne voit pas qu'elle va être complètement emportée par les assureurs privés. Donc je pense que là, Davant et compagnie étaient très contents. Mais en effet, en ce moment, ils sont en train de se heurter, c'est plus Chirac qui parle du Parti républicain, mais c'est Sarkozy et qui a un point de vue très différent. Donc je crois que la mutualité française, là, est en train de... Enfin, va rentrer en grande difficulté. Voilà.
Je vois que je ne vous ai rien appris. Non, évidemment, c'est... Moi, je le dis bonne, je ne sais pas, mais c'est une idéologie. Le problème, c'est que l'idéologie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, quoi. C'est que... moi, ma surprise, c'est que j'ai découvert la mutualité, je ne pensais pas du tout ça, alors je suis beaucoup plus novice que vous, hein. Et je croyais, par exemple, qu'au sommet de la Sécu, on a des alliés naturels. Bah, pas du tout. C'est-à-dire que le propre du néolibéralisme, c'est qu'il a conquis l'appareil d'État. Donc ça, c'est un truc terrible. Vous croyez que spontanément, vous dites, ah, bah, je suis avec une directrice de la Sécu ou un cadre de la Sécu, alors... pas du tout. Donc là, ça déstabilise, enfin pour quelqu'un comme moi, quoi, ça a déstabilisé pas mal de découvrir ça. Et au fond, à un moment donné, le pire... c'est quand dans une partie de la population pense ça. Moi, vous dites les gens sont attachés à l'hôpital public. Ça va commencer à diminuer. C'est encore très fort, mais hop, hop, hop. C'est comme l'école, hein. C'est-à-dire que vous dites l'école publique, école publique, école publique, puis quand c'est votre fils, vous dites, oh ouais, bon, peut-être que je vais le mettre un peu en privé. Oui, attendez, vous regardez la clinique, ils opèrent bien, l'hôpital, là, c'est la merde. Ben, attendez, je vais quand même aller à la clinique. Hein. Je vais défendre l'hôpital public ou je vais voter pour l'hôpital public. Mais enfin, pour le soin de mamie, on va quand même aller. Hein. Et puis, si on a un dépassement d'honoraires, on dit, ben, d'accord, il y a un dépassement d'honoraires. Bon, ben, d'accord, mais enfin, bon, pour la santé, on fera le dépassement d'honoraires. Donc, les internes, le jour où les internes vont nous demander d'aller dans les cliniques privées, et ça va arriver. Là, on sera le tapis qui nous tire sous les pas. Ça ne sera pas les cliniques privées qui demandent à prendre les internes, ce sera les internes qui demanderont à y aller. Donc là, l'affaire tourne à ce moment-là. Hein. Alors évidemment, ce ne sera pas tous les internes, c'est une chirurgie. Parce que quand vous avez dégradé assez le service public, alors le service public ne manque pas de défauts, parce que là, si on, si on nous a écoutés tous les deux, on dirait que alors que l'hôpital public, c'est vraiment génial. Bon, je ne suis pas convaincu, moi. Il y a du très bien et puis il y a du moins bien, quand même. Il y a des choses qu'on pourrait changer, qu'on pourrait améliorer, beaucoup. L'accueil et plein de trucs. Hein. Donc, mettre la transparence, enfin, on a un problème au fond, c'est l'affaiblissement des valeurs publiques. Dans une société, comment on fait vivre des services publics quand les valeurs publiques sont pas celles de la société? C'est pas évident, cette histoire-là. Hein. Donc, que les valeurs publiques soient vécues comme telles. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup l'idée que mais chacun ne fait qu'en fonction de ses intérêts personnels. Moi, j'ai connu un collègue qui opérait beaucoup. Qu'est-ce que disaient les autres? Il a l'orgasme de salle d'opération. Voilà, ce salaud s'emmerde chez lui, donc il opère. Bon, ça devient des valeurs privées. Il n'y a plus que des valeurs privées. Bon, et puis, c'est répandu largement. Hein, et ce n'est pas les pitreries sur Guy Moquet qui changent l'affaire. Hein, c'est comment une société vit ses valeurs et les construit. Donc là, on est dans quelque chose qui me semble plus complexe. Et on ne peut pas non plus ne pas réfléchir sur les changements du service public. Hein, bon, voilà.
Dernière question, oui.
Pour une réponse courte.
Moi, j'en aurais une rapide aussi, deux dernières questions. Voilà. La mienne est très courte, elle est très hospitalière, donc elle s'adresse à la fois aux syndicalistes et aux médecins. Il y a des transformations importantes au sein de l'hôpital en termes d'organisation du travail, hein, du fait de la prédominance de la financiarisation. Je voudrais avoir votre avis sur les conséquences en termes de conditions d'exercice, de travail et de métier, les transformations des métiers de soignants au sein de l'hôpital.
On va peut-être regrouper les questions. Il y en a une aussi au fond.
Moi, c'est simplement, vous avez parlé tout à l'heure très rapidement de l'activité privée des praticiens hospitaliers à l'hôpital. Je voudrais avoir votre sentiment à tous les deux sur ce sujet un peu plus.
Oui, Monsieur Grimaldi, j'ai bien entendu les doutes que vous exprimiez par rapport à l'appréciation que pouvaient avoir les citoyens, les patients par rapport à l'hôpital public ou la notion de public et autres. Pour autant, vous avez écrit un livre, vous avez signé avec des confrères dans le Nouvel Observateur, vous êtes à la fois une reconnaissance nationale de par l'expérience, de par l'efficience, de par la qualité de vos propos. Vous pouvez être amené à un moment ou à un autre à être fédérateur de quelque chose qui pourrait sortir le plus grand nombre de l'ignorance, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Votre propos devrait être entendu par bon nombre de patients par rapport à ce soir. Ne croyez-vous pas qu'à un moment ou à un autre, il existe dans ce pays des forces syndicales, des forces politiques, des forces associatives, des personnes éminentes qui pourraient à un moment ou à un autre être dans un endroit et partager pleinement les choses, voire les mettre progressivement sur la place publique et essayer de construire quelque chose qui pourrait être soit une alternative, soit une refondation, soit simplement rappeler l'essentiel même de ce qui a créé à la fois l'hôpital public, la sécurité sociale et l'ensemble de la protection sociale collective, solidaire et égalitaire d'une nation qui s'appelle la République française. Cet après-midi, dans un cadre particulier, j'étais reçu par le préfet de région pendant 1h30 et nous avons commencé notre propos par le pacte social républicain. Il nous a tout simplement répondu que pour lui, le pacte social républicain s'appuyait d'abord et avant tout sur les valeurs régaliennes de l'État. Nous les connaissons. Et il a bien pris naturellement la précaution de dire que lorsqu'il s'exprimait, il ne s'exprime pas pour la fonction publique territoriale ni pour la fonction publique hospitalière. Ça veut donc bien dire qu'à un moment ou un autre, on se rend compte que le président de la République a la main mise sur la santé publique, en général et sur l'ensemble de la protection sociale, mais d'un autre côté, il ne l'incorpore pas dans les valeurs républicaines, dans les valeurs régaliennes, et que par nature, à un moment ou à un autre, on peut se demander s'il n'y a pas une captation dans un premier temps, ce qui vient à reprendre le propos de Didier Bernus sur la forme de privatisation de la santé publique, dans un premier temps, pour mieux ensuite la livrer en pâture, naturellement, au secteur marchand, où là, il n'y aura plus à un moment ou à un autre d'égalité dans ce pays par rapport à la maladie.
La question sur les métiers, c'est tellement compliqué, et puis je suis tellement pas bon que j'ai du mal à répondre. Pour ma réponse par rapport au privé à l'hôpital, cette histoire est venue du compromis de 68. Robert Debré a eu contre lui l'immense majorité du corps mandarinal. Il s'est appuyé sur les jeunes qui étaient les biologistes, les néphrologistes, les biologistes qui voulaient créer les CHU et le plein temps. Hein. Et il a fait la concession du privé qu'il a présenté comme tel. Vous venez de ville, vous avez vos clientèles, puisqu'avant on allait à l'hôpital que le matin. Hein. Donc vous ramènerez votre clientèle à l'hôpital, on va moderniser l'hôpital et vous aurez droit au privé. Transitoirement pour une génération. Cette histoire s'est maintenue parce que tout le monde y a eu intérêt. Notamment les hôpitaux publics qui du coup ne payaient pas la retraite sur l'indemnité hospitalière. Ce qui fait que quand vous êtes comme moi professeur des hôpitaux, votre retraite c'est 40% de votre salaire. Vous n'avez pas de retraite sur l'indemnité hospitalière. Donc, moyennant quoi, cette hypocrisie a permis ça. Alors, le privé s'est développé où ? Notamment quand il y a des écarts terribles de revenus dans les spécialités entre la ville et l'hôpital. Si vous êtes chirurgien à l'hôpital, que vous êtes en public, vous gagnez 3 à 5 fois moins que votre élève qui s'est installé à la clinique en face. Dans la durée, ce n'est pas tenable. Alors, ça amène des collègues qui font du privé à des justifications injustifiables. Raconter des conneries, au lieu de dire, bah, écoutez, moi, le collègue d'en face, il gagne beaucoup plus, bah, moi aussi, je veux gagner plus. Dans une société où les hiérarchies ont considérablement augmenté, ça amène même Sedel, qui fait du privé, dont je parlais tout à l'heure, et qui s'est fait opérer d'une greffe du foie par un collègue qui, lui, n'en fait pas. Alors, dans son bouquin, il dit, quand on fait de l'orthopédie, c'est normal qu'on puisse faire du privé, mais pour les greffes, c'est pas normal. Donc, d'accord, bah, quand on lui fait une greffe à lui, il faut pas que ce soit en privé, mais quand lui, il fait de l'orthopédie, ça peut être en privé. Bon, moi, ma position actuelle, vu le bazar et la nécessité, ce problème-là n'est pas un problème majeur aujourd'hui, c'est de dire la loi que la loi. La loi, elle est précise. Elle dit 20% de l'activité et pas plus. Et elle dit ça ne remet pas en cause l'égalité d'accès aux soins des patients. Et elle dit il y a des commissions et s'il y a des infractions, ça doit être sanctionné. Le problème, c'est qu'il y a des infractions et elles ne sont pas sanctionnées. Bon, la consultation de cancérologie d'un célèbre cancérologue de la Pissapétrière, c'est 700 euros. La consultation, on est dans le délire. 700 euros la consultation. On est dans le délire. Bon, à nos urologues, on leur dit vous êtes des nuls, vous n'êtes même pas rentré dans le panel des 10 plus chers de toute la paix. Bon, enfin, il y a un côté, bon, voilà. Hein. Donc, moi, je dis de la loi, rien que la loi. Je comprends bien que l'affaire est délicate, mais dans les situations actuelles, je n'en fais pas la bataille du siècle. Mais la loi, rien que la loi. Hein. Alors, ce que je demande quand même, néanmoins, c'est qu'on arrête que ce soit les malades qui payent avec une enveloppe ou en dessous de table le chirurgien. Ils n'ont qu'à payer la caisse de l'hôpital qui reversera au chirurgien ou au médecin. C'est-à-dire qu'au moins, le rapport sera déjà plus propre que des histoires. Parce que, pour ne pas citer, c'est dans un bouquin, Madame Xenakis, la femme du grand musicien, compositeur, dénonce dans son livre qu'elle voyait un urologue. Elle ne dit pas où, mais elle disait qu'ensuite qu'elle voyait un diabétologue à la pitié et que l'urologue lui donnait des enveloppes dessous, ce qui est scandaleux, etc., etc. Et puis elle raconte ensuite comment elle venait me voir, etc. Bon. Alors, c'est dans le bouquin qu'a fait la paix. Rien. Bon, c'est ça qui n'est pas normal. Bon, il y a rappel à l'ordre, mais si ça continue, sanction. Bon, voilà, il y a une loi, il y a une loi. Moi, je demande l'application de la loi. Donc, ma position sur ça, elle est claire. Je ne demande pas la suppression du privé. Si c'est votre question, je ne demande pas la suppression parce qu'actuellement, je pense que ce n'est pas la bataille. La vraie bataille, c'est celle que vous avez soulignée. Peut-on constituer un front dont on se dit que beaucoup de gens sont sur cette idée-là ? Elle vient de loin dans le pays. Elle a pour elle que la logique du marché ne marche nulle part en santé. Hein, je ne parle pas d'autres secteurs, je parle dans la santé, je ne parle pas de l'automobile, je ne parle pas de malade. Dans la santé, ça ne marche nulle part. On a un débat aux USA, Bon, est-ce qu'on peut imposer, arriver à impliquer, à imposer un débat dans le pays ? Déjà ça. Alors, nous, on n'est que des espèces d'amateurs on se réunit, on essaie de construire un peu, etc. Et on est très seul. On se retourne vers la Sécu. Et là, on découvre que ce n'est pas tout à fait des alliés. Si, on apprend des choses, hein, mais qu'il y a une prudence de ceux qui seraient d'accord avec nous, incroyable. Bon, qui d'abord, la Sécu commence au sommet se considérer comme un assureur. Moi, j'ai appris que si vous faites un malaise à la porte de l'hôpital, l'hôpital doit vous soigner, vous n'avez pas votre carte vitale, la Sécu dit, il n'est pas un de nos clients, nous ne payons rien. Donc, quiconque n'a pas sa carte vitale, même relevée ou l'a pas, l'hôpital ne reçoit rien alors qu'il a le devoir de soigner. Donc, on a un truc, la Sécu change de comportement. Bon, alors j'ai appris que, par exemple, évidemment, j'ai appris ça à la Sécu, on parle de régulation publique, dans la régulation publique, il y aurait régulation des médicaments. Hein. Il faudrait une politique du médicament. Bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir. L'Inexium, qui est un inhibiteur de la pompe à protons pour l'estomac, est donné gratuitement aux hôpitaux par la firme. Comme ça, c'est sous ordonnance de sortie. Et si on prescrivait l'oméprazole, qui est la même chose, ça serait 100 millions d'euros d'économie pour la Sécu. 100 millions d'euros d'économie, me dit Hubert Allemand, médecin conseil national, c'est ce qu'on attend de l'augmentation des franchises. J'ai putain, dans ce pays, on a un débat sur l'augmentation des franchises et vous me dites, il suffirait que on interdise que l'Inexium soit donné aux hôpitaux, qu'on a le l'oméprazole, médicament identique, et c'est 100 millions d'euros. Pour l'hypertension artérielle, IEC et ARA2, deux cousins germains, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que 10% de patients que les IEC font tousser. On peut dire que pour cela, il faut mettre les autres. Différence, 200 millions d'euros, vous dit-on au ministère, 400 millions d'euros, vous dit-on à la Sécu. Donc déjà, le chiffre est un peu bizarre. Ils sont entre 200 et 400. Ouais, bon. Et où est-ce que c'est marqué ? Et où est-ce que c'est dans la haute autorité de santé qui fait des recommandations pour les généralistes ? Où il y a le rapport bénéfice-coût ? Où il y a même seulement le coût des médicaments proposés ? Nulle part. Si vous faites des recommandations, mais nous, on a le devoir éthique du code de déontologie. Le juste soin au juste coût. Donc c'est votre devoir, vous faites des recommandations, de dire quel est le coût des stratégies. Non, il n'y a rien. Bon, alors, après vous dites, ben, la FHF, Gérard Vincent, tournons-nous vers la FHF. Voilà des gens qui défendent le service public. Claude Évin, à patatrac. Ils sont pour la loi, ils expliquent que les mandarins gueulent à Paris, etc., etc. Et alors qu'ils font des textes par moments super, après, là, dernier texte signé Leonetti, le gel des tarifs que vous avez évoqués de la T2A va entraîner des déficits des hôpitaux et des suppressions d'emplois, alerte, situation dramatique qu'on n'a jamais vue. Mais ça ne change rien, après on continue comme avant. Bon, et c'est la FHF, semblait défendre les hôpitaux. On va voir la mutualité. On dit, il faudrait. Ah ben non. Nous, on est la mutualité exclue qu'on participe à un front. On va faire un think tank. Ben, très bien, on voudrait bien y participer. Bon, donc ils vont faire un truc. Bon, donc des gens qui tiennent le même discours, quand vous allez pour vous engager, vous trouvez difficile. Alors là, on a eu une discussion avec les directeurs de Force ouvrière, fort sympathique, et on a dit, ben, si on pouvait faire un bout de chemin ensemble. Au fond, la loi de 58, elle s'est faite par des médecins qui étaient des jeunes, qui avaient été aux USA, c'était Jean Dossé, qui est devenu prix Nobel, biologiste, Marcel Legrain, néphrologue. Et ils ont trouvé un mandarin qui était Robert Debré, lié à la résistance. C'était un ancien disciple de Charles Péguy, le grand-père Debré, c'était autre chose que la descendance. Hein. Et ils ont fait cette loi qui est passée parce que, dernier gouvernement de la 4e République, président du Conseil, on disait à l'époque, Charles de Gaulle, puis président de la République, Premier ministre Michel Debré, fils, et on légifère par ordonnance à cause de la guerre d'Algérie. Et ça passe par ordonnance. Bon, comment on pourrait recomposer une condition historique identique ? C'est ça votre question. L'affaire n'est pas évidente. Hein. Et nous, on cherche ça parce qu'on se dit, bon, très bien, on est en train de défendre l'hôpital, enfin, dans notre tambouille parisienne, trousseau, pas trousseau, et tout ça, très bien, c'est important. Mais ce qui est important, c'est le débat national, c'est que les gens y voient clair. Parce qu'autrement, sur un petit hôpital, machin, la maternité, ben oui, celle-là était mieux qu'elle ferme, celle-là, c'était pas bien. Parce qu'inversement, c'est pas toutes les maternités qu'il faut maintenir, tous les hôpitaux de proximité qu'il faut maintenir, évidemment. Bon, donc dans ce débat-là, on va s'y noyer. Il faut qu'on ait le débat national. Et c'est quoi la régulation du système de santé en France, ce que vous dites ? Bon, où sont les forces ? Alors, on rencontre des députés socialistes. Ben oui, on va vous filer les noms des gens qui ont voté contre la loi HPST, ils ne sont pas nombreux, mais on voudrait bien des gaullistes. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Et Juppé, qu'est-ce qu'il en pense? Il est absent au téléphone, il ne répond pas. Au niveau institutionnel, ce n'est pas simple. Autant que socialement, on voit bien ce qu'il en est, ce n'est pas simple. Le responsable chez REC, on lui a écrit pour le rencontrer, jamais de réponse. Alors, on a rencontré Thibault, fort sympa, mais ça n'a pas été plus loin. Nous, on n'est pas une force. On est des médecins, etc. Donc, l'équation que vous avez située, on l'a complètement dans la tête, plusieurs, mais comment la concrétiser? Alors là, il y a les directeurs défauts, peut-être.
De clôturer, à moins que vous ayez une phrase pour conclure.
Juste sur les métiers, vraiment, je vais faire très court. Les conditions d'effectifs qui existent dans les établissements pèsent immanquablement sur les exercices professionnels. C'est-à-dire que quand on n'est pas assez nombreux pour faire le boulot, on est obligé de travailler différemment et donc de déroger aux règles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes que l'on doit faire, que l'on est habilité à faire. Si on n'est pas le nombre, il faut quand même que les actes soient faits. Donc, c'est d'autres qui font les actes. Il y a ce qu'on appelle, dans les jargons, les glissements, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas habilitées à faire tel acte, qui les font. Et quand on fait le constat qu'il y a beaucoup de glissements, on prend des dispositions législatives pour dire, parce qu'on est dans le cadre d'exercices qui sont réglementés, c'est la loi qui définit quel acte je peux faire quand je suis médecin, quand je suis infirmier, quand je suis sage-femme, quand je suis masseur kinésithérapeute. Donc là, il y a des listes d'actes qui sont très nettement définies. On fait le constat qu'on ne peut pas faire cela. On prend des mesures législatives pour corriger le tir, et qui sont assorties, à la voilà que je te pousse quelquefois, en matière de formation complémentaire pour permettre aux gens de pouvoir sécuriser les actes qu'ils font, ou alors, c'est la grande mode, on protocolise, c'est-à-dire qu'on fait une feuille, on regarde les choses types, et on coche, tel un QCM, pour essayer de reprendre. Ça a le mérite d'une certaine efficacité. On sait très bien que ça délite, que globalement, ça affaiblit, ça abaisse le niveau de qualité des soins, et que globalement, on en arrive à finalement des situations de soins qui ne sont pas satisfaisantes, qui sont angoissantes pour les personnels. Le fameux malaise des personnels hospitaliers trouve en partie sa source là. On perd du sens dans l'exercice de sa mission, à la fois mission de service public, sa mission professionnelle, et on perd du sens, y compris au regard de ce que l'on doit à la personne soignée dans sa globalité.
Je sais pas ce que c'est la prochaine, je ne me rappelle plus. On peut pas être parfait. C'est vrai que pour conclure, il faut d'abord remercier Didier Bernus et Monsieur Grimaldi, qui sont quand même venus de Paris exprès pour nous voir. Je ne sais pas en termes de conclusion. Je crois que c'est la construction des contre-pouvoirs, dont il a beaucoup été question ce soir. Et quand je dis la construction des contre-pouvoirs, c'est des contre-pouvoirs sociaux. C'est-à-dire que ceux qui s'engagent en politique et qui ont bien raison de le faire font leur travail. Mais je crois que ça n'empêche pas justement ces constructions de contre-pouvoirs dont on a besoin, avec des discussions pluralistes, avec des points de vue qui permettent d'avancer, je dirais presque de grandir, et de nous permettre d'apporter une contribution. Et aujourd'hui, si des contre-pouvoirs sont déjà pas faciles à être construits, c'est ce que l'un et l'autre des interlocuteurs nous ont prouvé, c'est que même là où ils arrivent à se construire dans un milieu ou dans un autre, ils n'arrivent plus à être écoutés et entendus. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très gênant. Alors, notre association ASPES pèse vraiment pas très, très lourd comme contre-pouvoir, mais on réessayera sur ces problématiques de vous réinviter et de continuer tout ça. Et moi, je vous invite à continuer, si vous intéressez aux problèmes de santé, à venir nous voir environ 2 ou 3 fois par an. Et Roland va vous dire, parce que lui, c'est un bon élève, quelle est la date et le thème.
Alors, c'est le 12 mai et c'est santé et précarité.
Oui.
Inégalité de santé et précarité.
Oui. Voilà. Donc, le 12 mai, vous n'hésitez pas, vous venez. Et ASPES, c'est une association à laquelle on peut adhérer. Donc, vous voyez, là, dans les gens connus, Roland. Voilà. Alors, l'adhésion, c'est 15 euros par an. C'est quand même. Et ça donne droit à rien, à part de venir là la prochaine fois. faut pas exagérer non plus, mais nous, ça nous aide bien pour les préparations et tout ça. Merci.